Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dans le cadre des archives de Radio Courtoisie, voici le libre journal de Serge de Bekech du 23 juin 1993, diffusé dimanche 25 janvier 2015 dans la nuit de 2h à 5h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Bonsoir à tous. Vous savez, il y a des semaines où on se demande vraiment si nos bons confrères, si les hommes politiques ne nous prennent pas un petit peu tous pour des imbéciles, parce que quand on voit la polémique complètement bidon qui est en train de s'installer autour de cette affaire d'immigration, on se dit que de deux choses l'une, ou ces gens-là sont des crétins eux-mêmes, ou ils nous prennent pour des imbéciles. Il y a peut-être d'ailleurs un petit peu des deux. Parce que, il se trouve que je connais un petit peu le juge Marceau. Je le connais pas bien, je lui ai parlé deux, trois fois dans ma vie, je le croise de temps en temps. Et quand je vois le portrait qui en est fait par la presse, en général, enfin la presse de gauche, c'est-à-dire la presse en général, parce que pratiquement il n'y a plus que de la presse de gauche, c'est tout à fait extraordinaire. On a l'impression qu'on J'ai l'impression d'apprendre des choses, enfin de lire des choses sur quelqu'un que je connais pas du tout. Ce personnage, le juge Marceau, Alain Marceau, il s'appelle, il est RPR, si je ne me trompe pas, et je ne me trompe pas, RPR, député de la Haute-Vienne. Il est présenté comme une espèce de nouveau leader de l'extrême droite parlementaire. Hein. Le Globe Hebdo l'appelle, dit le concepteur de la chasse aux faciès, c'est lui. Concepteur de la chasse aux faciès. C'est-à-dire que, en fait, Globe Hebdo reconnaît que jusqu'à présent, la chasse aux faciès n'a jamais existé. Puisqu'il y a un concepteur de la chasse aux faciès qui vient d'apparaître, qui s'appelle le juge Alain Marceau. Enfin, qui s'appelle monsieur Alain Marceau, qui était juge d'instruction et qui maintenant, spécialisé dans les affaires de terrorisme, et qui maintenant est député RPR. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, mais, j'ai l'impression, en tout cas, que pendant des années, la gauche, l'extrême gauche, la presse de gauche, c'est-à-dire encore une fois toute la presse, nous a expliqué que la chasse aux faciès sévissait avant 81, bien sûr, puisqu'elle s'est arrêtée en 81 pour reprendre en 86 jusqu'en 88, date à laquelle elle s'est arrêtée de nouveau jusqu'en 93. Donc à l'époque, il mentait, puisque le concepteur de la chasse aux faciès, c'est le juge, enfin c'est le député Alain Marceau, et qu'il vient de le faire à l'instant, il vient de la concevoir maintenant. Donc avant, il n'y avait pas de chasse aux faciès. Ou alors ils nous mentent aujourd'hui en nous disant que c'est le concepteur. Eh bien moi je crois qu'ils nous mentent aujourd'hui. C'est très étonnant de la part de Globe Hebdo d'ailleurs. Un mensonge dans Globe Hebdo, c'est surprenant. C'est comme une... Non, je vais pas le dire. Oui. Comme une verrue sur la face d'un variqueux, c'est ça que je voulais dire. C'est à peu près aussi surprenant. Parce que il se trouve que j'ai découvert dans mes investigations personnelles un document qui est amusant et que je publie dans un décadaire de civilisation française et de tradition catholique qui s'appelle le Libre Journal de France Courtoise, et qui paraît tous les 10 jours, comme son nom l'indique. Et dans le numéro 7 qui paraît aujourd'hui, et qui n'est pas en vente dans les kiosques, je le rappelle, parce que quand on téléphone à Radio Courtoisie pour demander où on peut se procurer le journal de France Courtoise, il y a quelqu'un, je sais pas qui, quelqu'un répond, on le trouve dans les kiosques. Alors je dis non, c'est pas la peine, ça fait jamais que 70 jours que je répète à raison d'une fois par semaine qu'on ne le trouve pas dans les kiosques, mais qu'on ne peut l'avoir que par abonnement. Donc, si on est abonné ou si on envoie sa carte de visite à l'adresse que j'indiquerai tout à l'heure, on recevra ce numéro 7 du Libre Journal de la France Courtoise et on verra à la une le document que j'ai trouvé, qui est la couverture d'un journal qui paraissait avant-guerre et qui s'appelait le Petit Journal Illustré. Et je publie la couverture du numéro du 8 février 1925, qui est une couverture dessinée dont la légende est « La police traque les indésirables ». Alors le dessin montre, parce que ce n'est pas une photographie, c'est un dessin, montre une descente de police dans un tapis franc, sans doute, ce qu'on appelle un tapis franc, c'est-à-dire un établissement de jeu clandestin. Je peux vous assurer que quand on voit le dessin, on voit bien que les indésirables en question, c'est pas des Suédois. Hein, ça, c'est parfaitement clair. Au premier plan, il y a un monsieur qui a un chapeau sur la tête, qui n'est pas porté outre Quiévrain, il est plutôt porté au sud de la Méditerranée. Et tout ce petit monde porte force moustache et en flaquette, et est armé de couteaux qui ne laissent aucune illusion sur leurs intentions et sur la nature de leurs activités. Donc en 1925, en février 1925, la police faisait la chasse aux faciès, faisait des descentes dans les lieux où on trouvait, est-ce que je vais oser le dire ? Oui, je vais oser le dire, des Arabes, parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Quand on a un fez sur la tête, en général, on est un Arabe, ou alors on est déguisé pour une soirée costumée. Faisait des descentes dans les établissements comme ça. Et c'était tellement courant que ça faisait l'objet de la une du petit journal illustré du 8 février 1925, sous le titre « La police traque les indésirables ». On les appelait les indésirables. Les indésirables, c'est des gens dont on ne veut pas. Et à quoi est-ce qu'on reconnaissait un indésirable ? Ben, je vous laisse deviner. Alors, qui était en 1925 le responsable de la chasse aux indésirables ? Il faudrait quand même que on explique un petit peu aux jeunes Français... contrairement à ce qu'on essaye de leur raconter, la France n'a pas été nazie jusqu'au 8 mai 1945. Parce que maintenant, c'est ça qu'on nous explique. La France était nazie jusqu'au 8 mai 1945, date à laquelle le général de Gaulle, tout seul avec ses petits bras, a libéré la France. C'est pas exactement comme ça que c'est dans la réalité. En réalité, en 1925, la France était dirigée par une coalition politique qui s'appelait le cartel des gauches. C'est-à-dire, c'était l'ancêtre du Front populaire et l'arrière-grand-père du Front commun, du programme commun. Voilà. Alors, dans ce cartel des gauches, qui était une admirable collection de ringards, d'incapables et de voyous, il y avait un monsieur qui n'était ni un ringard, ni un incapable, ni un voyou, qui était simplement radical socialiste, franc-maçon, et membre de la Ligue des droits de l'homme, il s'appelait Monsieur Camille Chautant. Ben c'est Monsieur Camille Chautant qui était ministre de l'Intérieur en 1925, juste avant Monsieur Schrammeck. Vous savez, Monsieur Schrammeck, c'était ce ministre de l'Intérieur à qui Maurras avait dit, qu'est-ce qu'il lui avait dit ? Nous vous crèverons comme un chien, nous vous tuerons comme un chien, avec un couteau de boucher. Parce que Maurras, il n'avait pas la radio à sa disposition, mais ça n'empêchait pas de se faire entendre quand il avait quelque chose derrière. Il avait d'ailleurs été poursuivi pour ses propos. Je ne sais pas si ça lui coûtait aussi cher qu'à moi, mais ça lui avait coûté cher, forcément. Et Monsieur Camille Chautant, qui était le prédécesseur de Jules Schrammeck, et qui était un amusant personnage, était, je le rappelle, radical socialiste, franc-maçon, membre de la Ligue des droits de l'homme, et ça l'a pas du tout empêché, en 1925, d'organiser la chasse aux faciès, ou, si on préfère, la traque des indésirables. Ce qui veut dire que M. Pasqua, qui n'est, pour autant que je sache, ni radical socialiste, ni franc-maçon, ni membre de la Ligue des droits de l'homme, encore que ça demande à être vérifié, a une caution qu'il peut présenter à toute réquisition de la gauche et de l'extrême gauche quand on lui demande de justifier de son parfait profil de démocrate. Tiens, à propos, je voudrais dire une chose à propos de démocrate, c'est que je crois que je vais faire un procès au Canard Enchaîné, parce que le Canard Enchaîné parle de moi dans un écho et m'appelle immense démocrate. Alors je voudrais dire aux journalistes du Canard Enchaîné que je considère que c'est une injure, je ne suis pas démocrate. Je suis radicalement hostile à la démocratie, quelles qu'en soient les formes, parce que je pense que tout simplement la démocratie, c'est le système qui permet aux imbéciles de gouverner, qu'on en a la preuve depuis 2 siècles et qu'on commence à fatiguer un petit peu. J'aimerais bien qu'on change un petit peu ce régime. Donc m'appeler immense démocrate, dire que je suis un immense démocrate, c'est comme dire que, je sais pas moi, Balladur, M. Édouard Balladur, est un national-socialiste. C'est à peu près aussi fondé. Je suis à peu près aussi démocrate que M. Balladur est national-socialiste. Alors vous voyez qu'on est quand même assez loin du compte. Donc il s'agit d'une fausse nouvelle. Je dis aux lecteurs du Canard Enchaîné qui nous écoutent, je crois qu'il doit y en avoir un ou deux, que l'information qu'ils vont lire dans le Canard est fausse. Je ne suis pas démocrate du tout. Voilà. J'avais d'ailleurs déjà été traité de démocrate dans un autre organe de presse. Si je me souviens bien, c'était Le Monde qui m'avait traité de démocrate. J'ai pas poursuivi à l'époque, j'ai eu tort, parce que ça m'aurait permis de mettre de l'argent de côté. Donc je parlais alors là d'un vrai démocrate, qui est M. Pasqua, et dont le caractère démocratique est mis en cause souvent par la presse. Et je disais que maintenant, il y a une caution sérieuse, c'est son ancêtre, M. Camille Chautant, qui, lui, est le véritable concepteur de la chasse aux faciès. et non pas ce pauvre monsieur Alain Marceau, qui n'a rien conçu du tout, sinon, à mon avis, un amendement qui est une pure et simple provocation. Parce qu'il est évident que le problème, en ce moment, de Pasqua, c'est de ne rien faire absolument contre l'immigration, tout en faisant croire qu'il fait quelque chose. Alors, le meilleur moyen qu'il a de faire croire qu'il fait quelque chose, c'est de dresser contre lui tous les aboyeurs de gauche pour que la droite dise « Ah ben, forcément qu'il fait quelque chose, puisque la gauche n'est pas contente. » Et pour ça, il a un collaborateur qui est un homme charmant, je m'empresse de le dire, intelligent et très courageux, puisqu'il a été juge d'instruction spécialisé dans l'antiterrorisme à une époque où cette activité pouvait tout simplement lui valoir une balle dans la tête d'un moment à l'autre, ou une bombe. Attendez, il faut pas me passer de papier quand je suis dans... Parce qu'alors là, je me prends les pieds dans le tapis et c'est fini, il n'y a plus de bonhomme. Je disais donc que ce monsieur Alain Marceau... qui est un homme courageux et fort sympathique, naît dans cette affaire à l'évidence que, comment dire, pour ne pas être désagréable, disons le porte-drapeau, c'est pas désagréable le porte-drapeau, le porte-drapeau de M. Pasqua, ou on pourrait dire, pour être moins agréable, le fauné de M. Pasqua, c'est-à-dire qu'il fait semblant de faire une proposition, qui est évidemment une proposition imbécile, puisque cette proposition consiste à dire que il faudra que les contrôles d'identité soit effectué sur les étrangers en fonction de critères qui permettent d'identifier l'étranger, tout critère à l'exception des critères ethniques ou raciaux. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est totalement idiot. À quoi peut-on reconnaître un étranger?
Est-ce qu'il lit le Washington Post?
À rien. On ne peut pas reconnaître un étranger. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que même si on fait appel aux critères raciaux, on va dire... C'est un nègre, donc c'est un étranger. C'est pas vrai. Il y a des nègres français, et depuis plus longtemps que les Niçois. Bon, on va dire, c'est un jaune, donc c'est un étranger. C'est faux. Il y a beaucoup de Vietnamiens, de Cambodgiens, de naissance, qui sont devenus français, et qui sont plus français que bien des Français, en tout cas par l'enthousiasme patriotique. Et puis, il y a naturellement tous les harkis, il y a naturellement enfin tous ces gens qui sont de races différentes, de la souche française gauloise, mais qui sont nonobstant des Françaises, ça c'est indiscutable. Donc préciser, apporter cette précision dans un projet d'amendement, cette précision totalement incongrue et absolument inutile, c'est à l'évidence une façon d'agiter le chiffon rouge sous le nez du taureau. Et je connais suffisamment le juge Marceau, enfin monsieur Marceau, je connais suffisamment son astuce et son intelligence pour savoir qu'il s'est pas trompé. Il a pas fait ça par accident. Il a pas essayé d'introduire un amendement en disant il va peut-être passer. Non, non, pas du tout. Le juge Marceau, dans cette affaire, a été chargé par monsieur Pasqua d'agiter un chiffon rouge sous le nez de l'opposition de gauche, qui sait naturellement, parce que comme c'est majoritairement des abrutis, sans ça ils seraient pas de gauche d'ailleurs, c'est bien clair, cette opposition de gauche s'est précipitée sur ce chiffon rouge en disant « Voyez, la preuve que le juge Marceau est xénophobe, hein, c'est que ce concepteur de la chasse aux faciès, il est partisan d'un amendement musclé, nous dit Globe, qui revient à exercer en matière d'immigration un contrôle fondé sur les critères raciaux. » Or, c'est vrai que le juge Marceau agite le chiffon rouge sous le nez du taureau. C'est vrai que c'est un coup, c'est un bidonnage. C'est vrai que c'est une provocation. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que, ce qui est encore plus vrai, c'est que la gauche ment encore plus. Parce que la gauche dit, monsieur le juge Marceau, enfin monsieur Marceau, est un raciste, un xénophobe, qui veut qu'on fasse les contrôle d'identité en fonction des critères raciaux. C'est exactement le contraire. Il dit il faut faire des contrôles d'identité, mais pas en fonction des critères raciaux. Il dit il faut pas en tenir compte. Et eux disent, il appelle à contrôler les gens qui sont d'une race différente de la nôtre. Donc, non seulement c'est idiot, mais on est en plein dans cette espèce de confusionnisme volontaire qui caractérise la politique à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'on nous ment de tous les côtés, et comme je le disais au début de cette déclaration, ces gens-là nous prennent vraiment pour des imbéciles. Et par moments, on peut se demander s'ils n'ont pas raison, d'ailleurs, de nous prendre pour des imbéciles. Étant donné, je vais prendre avec cet exemple, les résultats électoraux qu'on voit. Quand on pense que la majorité des Français excédés par la droite au pouvoir, par la gauche au pouvoir, par 12 ans de pouvoir, enfin 10 ans de pouvoir de la gauche, a voulu voter à droite aux dernières élections législatives, il y a eu, soi-disant, un raz-de-marée de droite. Et ce raz-de-marée de droite a porté au pouvoir des gens qui n'ont qu'une idée, dans tous les domaines, que ce soit le domaine économique, le domaine de la sécurité, le domaine de l'immigration, le domaine de l'intégration. Bon. Ils n'ont qu'une idée, c'est de continuer ce que les gens de gauche ont fait. Ils ne changent absolument rien. La décision la plus lumineuse de M. Édouard Balladur à cette heure, c'est d'avoir augmenté la CSL, qu'il dénonçait lui-même et... la CSG. La contribution sociale généralisée. Excusez-moi, ce lapsus idiot. La contribution sociale généralisée qu'ils dénonçaient eux-mêmes et contre laquelle ils avaient voté unanimement, lorsque les socialistes l'avaient fait passer. Alors, on se demande vraiment, j'allais dire dans quel monde on vit, mais on se demande vraiment si ces gens n'ont pas pour les électeurs un mépris de fer. Et je crois que moi, c'est ça le fond de l'explication. C'est que ces gens-là ont un mépris de fer pour l'électeur. Et on le voit bien si on réfléchit à la façon dont cette affaire de l'immigration a été montée, à un moment tout à fait propice pour détourner l'attention des médias en général de tout ce qui est vraiment intéressant, c'est-à-dire par exemple la position de la France dans l'Europe à l'heure actuelle, dans les négociations européennes, et la position de la France, enfin la position du pouvoir vis-à-vis du problème du chômage, la position du pouvoir vis-à-vis du problème économique. Plus personne ne nous parle de ça. Toute la presse est focalisée sur un amendement parfaitement idiot, parfaitement inapplicable, et qui, à l'évidence, dès la première minute, on le savait, allait être éradiqué, supprimé et rejeté, l'amendement Marceau, présenté par M. Marceau, évidemment sur l'ordre de M. Pasqua. Donc, ils agitent des marionnettes, les gens, le public, les électeurs, les médias font semblant de ça, enfin, regardent les marionnettes, s'intéressent aux marionnettes, et pendant ce temps-là, les vrais problèmes sont pas du tout évoqués, les vrais problèmes sont dramatiquement aggravés. Je prendrai qu'un exemple. Alors là, dans le domaine de l'immigration, il y avait cette semaine plusieurs papiers dans la presse qui nous expliquaient que on était en face d'un phénomène de réussite totale de l'intégration qui était la ville de Vaux-en-Velin. Vous vous souvenez qu'il y a quelques années, Vaux-en-Velin, c'était l'endroit où sévissait la délinquance continuelle, les émeutes, les rodéos, les agressions. Et naturellement, c'était, on le disait encore à l'époque un petit peu, c'était peut-être un petit peu lié, de loin, à l'immigration. Parce qu'il est sûr, c'est que quand on arrêtait par hasard des gens qui étaient responsables de ces émeutes, on se découvrait qu'eux, en tout cas, étaient certainement liés à l'immigration. Eh bien, cette semaine, on nous a expliqué que ça y est, c'est fini. Vaux-en-Velin est un modèle d'intégration, c'est une réussite totale, c'est devenu une ville calme, c'est devenu une ville paisible, où enfin les immigrés sont intégrés. Et on en a eu la démonstration le jour même où sortaient les articles en question. Il y a eu l'arrestation d'une bande de trafiquants de drogue qui se baladaient quand même avec plusieurs kilos d'héroïne dans Vaux-en-Velin. Et cette arrestation a provoqué immédiatement des émeutes avec agression de policiers, destruction de magasins, incendie de voitures, etc. Donc voilà le modèle de l'intégration, le modèle de la ville intégrée. Mais tout le monde a fait des articles pour expliquer que Vaux-en-Velin était un modèle d'intégration. Et absolument personne, ou pratiquement personne, n'a parlé des nouvelles émeutes de Vaux-en-Velin. Et c'est comme ça tout le temps. Sur le plan judiciaire, par exemple, on peut raconter une histoire qui est quand même absolument exemplaire. Il y a un clandestin venu de Gambie, qui avait été embauché par un patron en lui présentant des faux papiers. Quand le patron s'est aperçu que ce clandestin lui avait présenté des faux papiers, il l'a foutu à la porte. Qu'est-ce qu'il a fait, le clandestin ? Il est allé au prud'homme. Il a porté plainte auprès des prud'hommes. Alors on lui a dit, ben montrez vos papiers. Alors il a montré ses papiers, qui étaient des faux papiers. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a été arrêté à l'audience. Parce qu'il était en possession de faux papiers. C'est quand même un délit grave, me semble-t-il. Enfin, sauf si on a changé ça depuis quelque temps, mais moi je crois pas. Il a donc été arrêté pour détention de faux papiers. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a porté plainte pour voie de fait contre le préfet de Lille, qui avait ordonné en quelque sorte escalité son arrestation. Eh bien, qu'a fait la justice ? La justice a dit, mais absolument, ce monsieur a tout à fait raison, car la saisie de documents administratifs dans une audience de prud'homme est un acte de force, un acte de voie de fait, est une voie de fait, dont le préfet n'aurait pas dû se rendre coupable. Donc, le clandestin gambien doit être remis en liberté, première chose. Et attendez, c'est pas le plus beau. Et deuxièmement, la police doit lui rendre les papiers qui ont été saisis. Autrement dit, la justice a obligé la police à rendre des faux papiers à un immigré clandestin. Voilà où on vit en 93. Ça s'est pas passé en 88, ou je veux dire en 89, ou en 87, sous le gouvernement socialiste. C'est pas monsieur Jox qui était ministre de l'Intérieur, et c'est pas monsieur, comment s'appelait-il? J'ai déjà oublié son nom, Astectoplasme, qui était ministre de la Justice. C'est aujourd'hui monsieur Méhaignerie, ministre de la Justice, et monsieur Pasqua, ministre de l'Intérieur, et monsieur Balladur, président du Conseil, décidément, je retarde, premier ministre, eh bien, c'est sous ces gens-là que la justice force la police à rendre ses faux papiers à un immigré clandestin.
C'est super.
C'est quand même pas mal, hein. Mais ces informations, je vous dirais quelque chose d'assez vaniteux, si vous ne lisez pas le Libre Journal de la France Courtoise, vous avez quand même assez peu de chances de les trouver, vous voyez. Alors, ce Libre Journal, il n'y a pas de raison que je fasse pas ma pub, parce que après tout, c'est pas simplement un acte commercial, ce Libre Journal, c'est aussi un acte militant. Donc il faut le faire connaître. Si on veut se le procurer, on envoie simplement une carte de visite 68 rue David d'Angers, 75 019 Paris, et on reçoit par retour un exemplaire du Libre Journal. Si on veut s'abonner, on peut s'abonner moyennant 600 francs pour l'année, ou 350 francs pour 6 mois, qu'on envoie par chèque à l'ordre de SDB, à la même adresse, 68 rue David d'Angers, 75 019 Paris. Et à propos d'abonnement, je voudrais remercier les innombrables, enfin je dis innombrables, c'est exagéré parce que justement j'ai le nombre, les très nombreux visiteurs de la fête de Courtoisie dimanche dernier, qui sont venus au stand du Libre Journal de la France Courtoise, plus exactement au stand du Libre Journal du mercredi soir, où ils ont trouvé parmi les livres présentés et parmi les ouvrages présentés le Libre Journal. Ils se sont abonnés massivement et ils ont pris connaissance du journal massivement aussi. Ça nous a fait vraiment très très plaisir. On a eu des marques de confiance et de sympathie qui étaient exceptionnelles, je dois dire. On a aussi d'ailleurs eu des marques de défiance et d'antipathie qui étaient exceptionnelles, mais c'est pas gênant. On a l'habitude. Puis au moins, quand tout le monde ne vous aime pas, ça prouve que vous existez. Voilà ce que j'avais à dire sur le Libre Journal. Mais je voudrais, pour montrer que je suis pas sectaire, parler d'un autre hebdomadaire qui est extrêmement intéressant. C'est Valeurs Actuelles. Alors, on aime ou on n'aime pas, c'est pas le problème. Parce que c'est toujours intéressant, en tout cas. Il y a dedans une rubrique qui est merveilleuse. Il y a plusieurs rubriques merveilleuses, mais il y en a une qui s'appelle « Perles de culture ». Et qui relève des perles de culture, il n'y a pas d'autre mot. Alors par exemple, à propos du changement, le communiqué nous dit Perles de culture dans Valeurs Actuelles, le communiqué publié par Jack Lang, ancien ministre de l'Éducation nationale, pour commenter la réforme du baccalauréat de François Bayrou, le nouveau ministre, comporte quelques surprises. Alors parmi ces surprises, il y a la phrase suivante. Il est heureux que cette réforme ait réussi, mais ait réussi EST. Et plus loin, on peut déplorer, et accent aigu, bien entendu. Et plus loin encore, la reconnaissance en égale dignité des grandes voies de formation, et en égale, ça s'écrit EGAL. Alors qu'il s'agit d'égale dignité, donc on aurait dû mettre une E. Voilà.
Oh, le secrétariat n'est plus ce qu'il était.
Non,
c'est
le secrétariat.
Pour ça.
Mais je me demande si Jacques Lang a une pratique courante de langue française. C'est peut-être ça qu'il faut se demander. Ah oui, mais il a peut-être aussi, peut-être que ses secrétaires n'ont pas non plus une pratique courante de langue française. Et alors à ce propos, enfin dans le même cadre, la même rubrique Perles de culture signale en couverture du Figaro Magazine une grande enquête sur le français tel qu'on le massacre à la télévision, l'invasion de l'anglais, les fautes des commentateurs, etc. Et dans la demi-page consacrée aux variétés du même numéro, on relève top LP, ambiance jazzy, best-of, forcing start et showbiz. C'est des mots employés dans l'article du Figaro Magazine. Vous voyez ? Donc c'est bien la preuve que eux non plus sont pas sectaires, parce que d'une part ils font une enquête pour démontrer comment ils massacrent la langue française, et d'autre part ils montrent qu'on peut sans massacrer la langue française utiliser des mots étrangers. Je sais tout ce que j'avais à dire. Sinon que quand même, je voudrais saluer Monsieur Jacques Godefrin, député de l'Aveyron, qui vient d'obtenir le prix d'excellence de l'humour politique pour cette phrase. Mais je suis désolé, je l'avais dit avant lui, les socialistes aiment tellement les pauvres qu'ils en fabriquent. Donc je considère que je suis le détenteur du prix de l'humour politique pour 1992. Voilà.
J'ai un commentaire d'auditeur à propos de la chasse aux faciès. C'est un auditeur pied-noir qui dit « En 1962, j'ai été contrôlé 7 fois entre Marseille et Vichy à cause du délit de faciès de l'époque, plaque d'immatriculation dans le département d'Alger. » Oui, mais... dans le département d'Algérie, pardon.
Oui, c'est intéressant. Cela dit, je me demande ce qu'il allait faire à Vichy. C'était en quelle année ?
Ah ben non, c'est 1962. Écoutez, c'était pas pendant les années les plus sombres de notre histoire.
Ah ben vous me rassurez.
Et puis il y a aussi un petit commentaire sur Simone Veil. Mais a-t-elle été choisie par le peuple dans les élections précédentes ? Où était-elle à ce moment-là ? Que faisait-elle ? Parce que là, on l'a nommée. Mais ce ne sont pas les gens du peuple qui l'ont mise là.
Bon. Comment c'est pas les gens du peuple qui l'ont mise ? Ben bien sûr que c'est les gens du peuple qui l'ont mise là.
Elle a pas été élue.
Ben, ça n'empêche pas que c'est les gens du peuple qui l'ont mise à sa place. Alors ça, c'est parfaitement clair. Bon, vous avez d'autres choses à dire ?
Rien du tout.
Rien du tout. Bien, on va peut-être écouter un tout petit peu de musique pour se détendre. Et puis, on va passer ensuite au programme général de cette émission. C'était drôlement roboratif comme petite musique. Qu'était-ce ? On me le dira sans doute après.
Champagne polka.
Alors, pour la suite de cette émission, pardon, nous recevons quelqu'un de tout à fait intéressant, puisqu'il s'agit... Alors, comment dit-on ? On dit un ancien gendarme, un ex-gendarme, un gendarme en disponibilité, un officier de gendarmerie ?
Ben, on dit en tous les cas un gendarme en disponibilité, c'est ce que je suis actuellement, et un officier de gendarmerie en disponibilité, certainement.
Alors donc, nous recevons un officier de gendarmerie en disponibilité qui s'appelle Jean-Pierre Fabre, qui est devenu auteur, écrivain. Il a publié déjà un livre dans la série Les dossiers criminels de la gendarmerie. Ce livre, c'était...
Crimes au village.
Crimes au village, c'est ça. Et puis... Il publie cette fois-ci, alors c'est chez Michel Lafon et Anne Carrière.
C'est ça.
Et il publie cette fois-ci Les Feux Meurtriers dans la série Les Enquêtes Mystérieuses. Et alors, c'est un livre extrêmement troublant dont on va parler, parce qu'il pose quand même beaucoup, beaucoup de questions. Mais avant, j'ai remarqué une chose, c'est que quand j'ai raconté l'histoire de mon grand bien remis en liberté à qui on avait fait rendre ses faux papiers, le capitaine Fabre, on peut toujours vous appeler capitaine.
Toujours, ouais. Si on veut, oui.
Oui, enfin, vous n'êtes pas plus que ça, si.
Ben, je crois qu'il faut choisir dans la vie. À partir du moment où on quitte une institution, bon, on revêt un autre uniforme, hein, un uniforme plus commun.
Un uniforme de civil.
Un uniforme de civil.
Alors, en tout cas, donc, Monsieur Fabre, Monsieur Jean-Pierre Fabre, était le seul à ne pas trouver la chose renversante. Il me regardait d'un air de dire, ça a pas l'air très étonnant ce que vous nous racontez. Et pendant qu'on écoutait Champagne Polka, il m'a expliqué les raisons de son côté blasé. Vous pouvez nous raconter cette expérience personnelle qui vous est arrivée
il y a quelques années. C'est arrivé il y a quelques années dans la région lyonnaise, où sévissait sur l'autoroute qui traverse Lyon et qui va vers Marseille un certain nombre de pirates, notamment du côté de Feuzin. Or, on traquait ces pirates depuis pas mal de temps, et un jour, nous avons réussi, avec l'accord du juge d'instruction, à faire un maximum de perquisitions et à trouver un maximum d'objets. Et nous avions recensé une centaine d'appareils photo, de cassettes, de bijoux, enfin de tout ce qu'on pouvait trouver dans les véhicules, puisque les pirates en question fracturaient les véhicules et où ils s'emparaient des véhicules s'il y avait les clés dessus, ou alors ils s'emparaient des objets à l'intérieur. Or, il se trouve que le juge d'instruction, tout le monde peut commettre des erreurs, avait dans sa commission rogatoire oublié de parler de perquisition. C'est une commission rogatoire générale, il avait oublié de parler de perquisition. Et à ce moment-là, on a vu le mécanisme de la justice se mettre en route, et je dirais aller jusqu'à l'UBU, c'est-à-dire nous dire, ben écoutez, là, on est dans l'irrégularité, ce qui était vrai d'ailleurs. Alors il va falloir que vous rendiez les appareils photos, que vous rendiez les bijoux, tout ça, aux personnes à qui vous l'avez prise, c'est-à-dire aux gens qui l'avaient volé. C'était quand même une situation assez rocambolesque. Heureusement, on n'a pas été jusque-là, car il y a quand même des formules dans le droit qui ont permis de revenir au bon sens et ne pas nous arrêter à cet état qui aurait été quand même pour les gens qui avaient été volés difficile à expliquer.
C'est très exceptionnel ce genre de choses ou c'est relativement courant?
Il peut y avoir. Il est certain qu'à partir du moment où il y a des notions de droit et un code et des articles de loi, on peut arriver le terrain, ce qui se passe constamment est une chose qui ne va pas toujours avec le droit. Donc on peut arriver à certains moments à des digressions, à des antinomies et là il faut faire très attention et je crois qu'il faut surtout beaucoup de bon sens aux autorités de telle manière à ce que ça se passe bien.
Je crois qu'il y a une autre dimension quand même qui est à prendre en considération, c'est que je me souviens d'une affaire pas très ancienne où toute une bande de très gros trafiquants de drogue avait été arrêtée. Je crois qu'ils étaient 13. Et c'était vraiment des gros trafiquants de drogue, des gros trafiquants. Et ils ont été libérés, on les avait arrêtés avec la CAM au moment où j'étais en train de prendre possession de leur livraison dans un camion sur l'autoroute du Sud, si je me souviens bien. Et ils ont été libérés un mois plus tard parce qu'il y avait une toute petite erreur de procédure, une toute petite erreur de virgule dans la procédure. Alors, je dis pas que c'est le cas dans ce cas-là, mais enfin, quand c'est des gens comme ça, quand c'est la mafia qui dispose de milliards pour acheter des gens, il est évident que c'est très très facile d'acheter un quelqu'un pour lui dire, bah, écoutez, si vous oubliez une virgule, si vous sautez une ligne, si vous mettez un point où il n'en faut pas, ou une majuscule à un endroit où il faudrait une minuscule, vous toucherez tant, et puis c'est tout ce que vous avez à faire. Ça rend la procédure nulle, on a un avocat qui s'y connaît et qui saura régler le problème, et puis voilà, le problème est réglé, et les gens se retrouvent en liberté. Donc, je veux dire, il y a peut-être, il y a certainement des maladresses involontaires, mais cette espèce de pointillisme légaliste, quand on est en face de crapules avérées, permet tous les abus et toutes les combines.
Il faut, c'est peut-être vrai, je ne sais pas, je n'ai pas eu dans ma carrière ce genre de phénomène, mais il est certain que les avocats actuellement sont des gens, notamment pour les affaires d'assises, puisque une affaire d'assises ne peut aller qu'en cassation, il est certain que les avocats vont regarder la forme et non le fond, parce que la cassation se fait sur la forme et non le fond. Donc ce sont des gens qui sont habitués à regarder la virgule près, ils sont habitués à regarder toutes les erreurs possibles. Or, vous pensez bien que un dossier qui va aux assises, par exemple, bon, pour un crime, c'est un dossier qui fait à peu près 1000 procès-verbaux, quelquefois, hein, ou 500, ou bon, même 200, c'est-à-dire à peu près un minimum de 1000 pages. Comment voulez-vous que sur 1000 pages, il n'y ait pas des erreurs de commises, hein ? Il y en a déjà, quand on écrit un livre, puisqu'on vous reprend, et vous avez 4 ou 5 correcteurs qui sont là, alors vous pensez bien que quand un policier ou un gendarme fait son procès-verbal, il commet des erreurs, et un juge d'instruction, de la même manière, lorsqu'il interroge le prévenu avant, hein. Bon, donc il est certain que c'est peut-être une déviation du droit qui peut être assez inquiétante, parce que on regarde la virgule, on regarde le point et on ne regarde plus le fond de l'affaire.
Ah, vous parliez d'erreurs. Il y a des erreurs qui sont bon. On peut faire des erreurs de virgule, des erreurs de point, pas seulement sur les procès-verbaux ou sur les documents de justice. Il y a des moments où c'est beaucoup plus rigolo. Une auditrice m'a écrit aujourd'hui parce que cette dame descend de Stofflet, le célèbre Chouan, le célèbre combattant Chouan. Et la Monnaie le vient d'éditer, il y a quelque temps, une médaille à l'effigie de Stofflet. Très belle médaille, superbe. Un tout petit détail près, c'est que la date de naissance est fausse. La date de naissance indiquée sur la médaille, c'est, je crois, 1753, alors que Stofflet est né, je crois, en 1760. C'est pas tellement, d'ailleurs, surprenant, parce que, sauf erreur de ma part, le Larousse indique 1751. C'est-à-dire que personne, en réalité, ne semble savoir quand est né Stofflet, sauf cette dame, qui est la descendante de l'intéressé, et qui, en tant que descendante de l'intéressé, dispose de tous les papiers nécessaires pour prouver que son ancêtre est bien né à la date qu'elle indique. Alors, munie de tous ces papiers, elle est allée voir les responsables de la Monnaie en leur disant, ben voilà, vous avez commis une bourde, vous pouvez pas laisser circuler une médaille qui présente une date fausse. Et ils ont dit, oui, vous avez tout à fait raison, donc on va interrompre immédiatement la diffusion de cette médaille, on va casser les moules, on va refaire des moules avec la nouvelle date. Alors, j'avais calculé ce que ça coûtait, j'ai oublié le prix. Mais il y a 2 ans, si je ne m'abuse, 2 ou 3 ans, la même administration avait publié une médaille européenne. Une médaille européenne. Et alors sur cette médaille européenne, il y avait les effigies symboliques des 12 pays d'Europe. Alors pour la France, il y avait, je ne sais même pas quoi d'ailleurs, une Marianne probablement, parce qu'on ne sait jamais exactement ce qui est censé symboliser la France républicaine, ou un coq, ou je ne sais quoi. Pour l'Angleterre, c'était un lion, et pour l'Espagne. Et alors à chaque fois, au-dessus du symbole, il y avait le nom du pays dans la langue du pays. France, c'était France. L'Allemagne, c'était Deutschland, avec l'animal symbolisant l'Allemagne, qui devait être un ours peut-être, un aigle, je ne sais pas. Et en tout cas, pour l'Espagne, c'était un taureau, et au-dessus, il y avait le nom Espagna, mais Espagna était écrit E-S-P-A-G-N-A. Et ils ont distribué comme ça plusieurs milliers de médailles, jusqu'au moment où quelqu'un, à savoir d'ailleurs l'hebdomadaire que je dirigeais à l'époque, leur a fait remarquer, avec beaucoup d'humilité, que, sauf erreur de la part de ces imbéciles de journalistes, Espagna en espagnol, ça s'écrit pas GNA, mais ça s'écrit ANA. Alors ils ont constaté qu'effectivement ils avaient commis une petite erreur. Et oui, le N avec le petit accent au-dessus. Ils ont constaté qu'ils avaient commis une erreur. Et sans barguigner, ils ont mis à la casse les moules. Ils ont refait d'autres moules pour imprimer une nouvelle médaille. Ce qui a coûté, alors j'avais fait le calcul à l'époque, c'était phénoménal. Donc vous voyez que il n'y a pas que les juges d'instruction ou les gendarmes qui se trompent. Il y a aussi des gens extrêmement sérieux de l'administration des médailles qui peuvent faire des erreurs qui coûtent cher. À qui ?
À nous.
C'est bien. Un peu de poujadisme n'a jamais fait de mal à personne. Bon, populisme. Enfin, c'est pas pour.
Le populisme.
Le populisme. Oui. C'est pas pour parler de ça que j'ai fait venir Jean-Pierre Fabre, mais quand on a, c'est tellement rare qu'on ait sous la main un ex-gendarme frais et moulu de la gendarmerie, parce que il y a pas très longtemps, je crois, Jean-Pierre Fabre, que vous avez rendu votre képi.
3 mai.
Oui, alors effectivement, ça peut pas être plus frais. Donc, c'était l'occasion ou jamais de lui faire apporter ce témoignage personnel. Maintenant, en voyant son livre, qui est un livre que moi j'ai trouvé passionnant, parce que c'est un livre qui traite d'un des mystères les plus mystérieux, et c'est un mystère tellement mystérieux que ce mystère a fait l'objet d'un épisode de l'émission Mystère du mois dernier, je crois.
C'est cela, oui.
Vous étiez invité sur le plateau de l'émission.
C'est cela.
Il s'agit de ce que vous avez appelé les feux meurtriers. Alors, les feux meurtriers, ça peut paraître un titre un petit peu banal, parce que on se dit, les feux meurtriers, c'est les incendies dans lesquels les gens brûlent, ou c'est les incendies de forêt, et c'est pas du tout à ça que vous faites allusion. C'est un genre de feu beaucoup plus exceptionnel.
Oui, c'est en effet des feux assez exceptionnels qui se trouvent peu couramment dans la presse. C'est les phénomènes ce qu'on appelle l'autocombustion spontanée. On a remarqué que de temps en temps, un certain nombre de personnes étaient retrouvées calcinées complètement ou pratiquement complètement dans des circonstances un petit peu mystérieuses. Alors, d'abord, je crois qu'il faudrait faire la différence entre la carbonisation et la calcination. Généralement, quand une personne décède par les flammes, elle est carbonisée, c'est-à-dire qu'elle est réduite. Je ne vais pas rentrer dans le morbide, mais elle est réduite, le crâne est réduit, la position des mains est très particulière. Mais si vous voulez, la forme reste. Or, dans les histoires de calcination, il n'y a plus de forme, puisque une partie du corps, qui peut être plus ou moins importante, est complètement en cendres. Nous avons de la cendre, comme de la cendre de cheminée, de manière identique. Évidemment, ça veut dire que la chaleur qui a été nécessaire pour brûler ces corps n'a rien à voir avec une chaleur classique. Et que là, on rentre donc dans un domaine tout à fait mystérieux, dans la mesure où on peut se demander comment, à ce moment-là, des corps ont pu brûler avec une telle chaleur.
Alors, donc il semblerait, quand on lit votre livre, que certains corps subissent une crémation spontanée.
Oui, c'est ça.
Qui ne vient pas d'un agent extérieur.
J'essayais au départ d'être assez honnête. Moi, je ne suis pas parti sur un sujet en me disant je vais faire du mystère. J'ai essayé de comprendre parce que j'ai un de mes camarades de promotion qui a vécu dans son coin une affaire comme celle-là et qui m'en a parlé en me disant écoute, moi j'ai un truc très bizarre, il m'est arrivé une affaire, et c'est l'affaire d'ailleurs du Ruf, je dirais la deuxième affaire du Ruf, on pourrait dire, où une personne d'une cinquantaine d'années avait été retrouvée enfermée chez elle et calcinée en partie. Et c'est à partir de là que je me suis intéressé à cette affaire. Donc, si vous voulez, moi, je n'ai pas regardé au départ le côté mystérieux. Je me suis dit même, j'ai eu même la démarche inverse. J'ai eu la démarche de l'enquêteur de gendarmerie en me disant, il doit y avoir, on se croit toujours très fort, donc je me suis dit, il doit y avoir quelque chose qu'ils n'ont pas vu et qui va me permettre de comprendre pourquoi et comment c'est arrivé.
Mais il faut quand même que je précise, parce que je sais que vous le ferez pas vous-même, que dans le passé, il vous est arrivé de prendre des enquêtes qui semblaient piétiner et de vous avez un certain pif, un certain talent pour identifier pour trouver la faille d'une affaire. Pour trouver, ça c'est, oui, je sais que vous voulez pas en parler forcément.
Non, enfin, mais bon, voilà. Non, mais
la chose est dite.
En disant, on va peut-être trouver, je vais peut-être trouver le pli, peut-être trouver le détail joie, qui explique pourquoi exactement. Cette femme-là a été brûlée de cette façon et démontrer que ça n'a rien de finalement mystérieux.
Voilà, donc c'était une démarche très rationnelle au départ et qui n'avait rien pour moi de mystérieux. Et ayant réussi à avoir donc les procédures, et je dois remercier d'ailleurs la justice à cette occasion et les procureurs de la République que j'ai pu contacter, j'ai repris... page par page, toute l'enquête pour essayer de voir ce qu'on pouvait trouver. Et je me suis aperçu que on ne pouvait pas dire que la gendarmerie ni la justice en règle générale, même les experts n'avaient pas fait leur travail, puisque on ne pouvait pas donner d'éléments supplémentaires. Si vous permettez, je vais décrire l'affaire peut-être en quelques mots, et je crois qu'on comprendra mieux. Nous sommes en 1977, entre le 11 et le 12 mai 1977. Et se trouve dans le village du Ruf, petit village de Meurthe-et-Moselle, la mairie. Et au-dessus de la mairie, comme ça se fait souvent dans ces petits villages, se trouve l'appartement de l'instituteur. La mairie, j'ai oublié de le dire, au rez-de-chaussée, fait mi-mairie, mi-école publique. Vit dans cet appartement une personne, l'instituteur, qui s'appelle Monsieur Alain Kachmirzak. Cette personne reçoit de temps en temps sa mère, qui est veuve, veuve d'un mineur d'origine polonaise, qui est mort lors d'un coup de grisou, brûlé dans d'atroces souffrances. C'est quand même déjà la première chose assez extraordinaire, c'est que son mari donc est mort brûlé, à retenir. Cette personne donc est présente le 11 mai 1977, et elle est seule car son fils est parti rejoindre sa fiancée sur Nancy. Nous savons par les témoignages de ce jour-là, que jusqu'à 8h30, elle est en tous les cas vivante chez elle, car des élèves sont passés pour voir l'instituteur qui était absent et ont contacté sa mère. À partir de 8h30, le mystère commence à devenir, puisque nous n'avons plus de témoignages, et que c'est simplement la voisine vers 4h30 du matin, qui sentant de la fumée et voyant de la fumée, une fumée considérable chez elle, se lève, et à ce moment-là, s'aperçoit qu'il y a des flammes qui passent, de légères flammes qui passent sous sa porte, et en ouvrant sur le palier, elle s'aperçoit qu'il y a des flammes qui viennent de chez sa voisine. Elle alerte à ce moment-là les pompiers. Les pompiers viennent, cassent une vitre pour pénétrer chez cette femme, et à ce moment-là, aperçoivent dans l'entrée le corps de cette personne. Voilà le résumé de l'affaire. Alors, les côtés bizarres de cette affaire, d'abord, c'est que ils ne sont pas pénétrés par la porte, mais par la fenêtre, parce que la porte était fermée, et la porte était fermée à clé de l'intérieur. Les clés étaient sur le bureau, et la deuxième paire de clés, c'était le fils qui l'avait, et le fils se trouvait à 60 km à Nancy, au milieu de ses beaux-parents, donc on a les témoignages de trois personnes, le père, la mère et sa fiancée. Bon. Donc ça paraît difficile quand même de voir au niveau du fils. Difficile ensuite le reste, puisque l'autre paire de clés est sur le bureau. Donc on peut imaginer que cette personne, on voit mal une intrusion d'un assassin quelconque. Alors vous me direz, mais à ce moment-là, il reste deux choses. Ou l'accident, ou le suicide. Alors, accident, suicide, oui. Mais encore faut-il trouver la source de départ de chaleur, c'est-à-dire la flamme. Alors la flamme, premier point, est-ce que ça peut être une boîte d'allumettes? Il y avait en effet une boîte d'allumettes, mais cette boîte d'allumettes était sur le rebord de la fenêtre. Et imaginez quelqu'un qui veut se mettre le feu sur lui-même, on le voit mal se mettre le feu et puis reposer tranquillement la boîte d'allumettes sur le rebord de la fenêtre. Autre source de chaleur, autre source de flamme, il n'y en avait pas. La cuisinière était une cuisinière à gaz, le gaz était fermé et la cuisinière était fermée. Il y avait bien un appareil pour allumer le gaz, mais c'était un petit appareil électrique.
Piezoélectrique.
Oui, qui ne permet pas de flamme. Il n'y avait pas de bougie, et il n'y avait rien d'autre au niveau. Il n'y avait pas de briquet, personne ne fumait, donc il n'y avait rien d'autre. Donc, premier point, d'où provient cette flamme? C'est une chose qu'on n'a jamais pu démontrer, on n'a jamais pu trouver. Et il y a le dernier point, c'est que cette dame a eu un comportement bizarre. Alors ça, je dirais que c'est le mystère dans le mystère. Elle a eu un comportement bizarre dans la mesure où, lorsque les enquêteurs sont arrivés, on a retrouvé une robe neuve, dans la poubelle, et que de plus, lorsqu'elle avait vu les derniers témoins, elle leur avait dit « je suis en train de prendre, de faire ma... » ma toilette.
Lorsqu'elle avait entendu, parce que
Oui.
C'est elle à travers
vu,
la porte.
Elle avait vu d'abord un premier témoin, et elle avait ensuite entendu un deuxième témoin, qui est le dernier, vers 8h30, et elle lui avait dit, je suis en train de faire ma, ma toilette, et son fils confirmera d'ailleurs par la suite qu'en effet, vers 8h30, elle avait l'habitude de se coucher, c'est une personne qui avait une vie tout à fait simple et tout à fait naturelle, et elle avait l'habitude de se coucher, or, lorsqu'on la retrouve et lorsqu'on fait l'analyse de ce qui reste au niveau du corps, on s'aperçoit qu'elle avait une robe et, oui, alors, et pas du tout donc comme elle était d'habitude, c'est-à-dire qu'elle se mettait en chemise de nuit.
Son fils dit que à cette heure-ci, d'habitude, elle faisait sa toilette, ensuite elle se mettait en chemise de nuit, elle allait se coucher. Et là, on sait qu'elle a dit je fais ma toilette et apparemment elle n'a pas fait comme d'habitude puisqu'on retrouvera dans les débris carbonisé des éléments qui permettent d'établir qu'elle portait sa robe au moment où elle a brûlé. Et alors, détail, vous l'avez dit rapidement, détail plus surprenant que tous les autres, extrêmement mystérieux, extrêmement curieux et incongru, on va trouver dans la poubelle de l'appartement une robe neuve.
C'est ça, on trouve dans la poubelle de l'appartement une robe neuve qu'elle portait au moment de son fils est parti vers 17h, pour se changer. Et dernier point que je n'ai pas dit au niveau du corps, c'est que je vous ai parlé tout à l'heure de la calcination du corps, c'est-à-dire donc un tas de cendres, et c'est vrai qu'il y avait un tas de cendres au niveau du tronc, mais par contre, au niveau des membres inférieurs, des jambes, elles étaient totalement intactes. Et il n'y avait pas que les jambes qui étaient intactes, puisque les bas en nylon qui recouvraient les jambes n'étaient pas brûlés. Il y avait simplement quelques trous qui étaient dus peut-être à des projections de graisse ou à la porte qui avait été cassée à ce moment-là. Donc ça aussi, c'est un point assez extraordinaire. C'est cette espèce de frontière nette entre la calcination d'un côté et des jambes qui sont totalement reconnaissables et qui sont tout à fait au naturel, je dirais.
Alors, ça c'est... Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà constatées ou que d'autres gendarmes ont déjà constatées dans leurs enquêtes? Cet aspect-là, précisément, d'un corps carbonisé, c'est-à-dire, quelle température faut-il obtenir pour...
Alors, le problème, oui, en effet, la calcination, à ce moment-là, serait de l'ordre, mais les experts sont jamais tous d'accord, de l'ordre de près de 1000 degrés.
Bon, alors donc, 1000 degrés, pendant un temps suffisant pour carboniser complètement un corps, à l'exception des à l'exception des jambes qui, elles, restent intactes,
totalement,
y compris les bas de nylon qui ne vont même pas fondre, alors qu'on peut imaginer qu'une telle source de chaleur à proximité d'un tissu de nylon aussi fin que celui d'une paire de bas va provoquer au moins la fonte de ce tissu, et ça n'arrive pas.
Oui.
Donc ça, c'est une notation qui est très importante, c'est qu'on a l'impression que la source de chaleur qui entraîne la calcination est parfaitement localisée, mais localisée dans l'air aussi. Il n'y a même pas de radiation calorifique. C'est absolument incroyable, cette situation.
Surtout que ce qui est bizarre, c'est qu'il y a quand même des choses dans la cuisine qui est plus loin qui vont fondre. C'est-à-dire il y a des éléments plastiques qui vont fondre. Donc on aurait pu penser que la chaleur qui s'est dégagée, il y a quand même une chaleur qui s'est dégagée, c'est évident, aurait touché ses barbes qui étaient plus près puisqu'ils étaient au niveau de la frontière à quelques centimètres. Eh bien non, ce sont des éléments de cuisine qui vont fondre à côté. Il faut dire aussi que tous les murs étaient noircis par de la fumée, évidemment, qui s'était dégagée, de la fumée un peu grasse, et ces murs étaient là. Mais il n'y avait pas de traces de feu. C'est-à-dire que le seul endroit qui avait brûlé, c'était sous le corps. Mais le reste n'avait pas brûlé, pourtant c'était du parquet, le reste n'avait pas brûlé.
Le parquet sous le sol était carbonisé.
Le parquet sous le corps était carbonisé.
Sous le corps, oui.
Mais le reste n'était absolument pas carbonisé, le reste du parquet n'était pas carbonisé.
Bon, ça c'est des faits dont vous avez connaissance par un dossier qui a été entre les mains de la justice, qui a été établi par la gendarmerie.
Tout à fait.
Donc tous les éléments que vous nous donnez là sont absolument incontestables.
Ah, ils sont incontestables.
Aucune invention.
Ah non, absolument.
On va revenir sur votre livre Les Feux Meurtriers dans deux minutes, mais je vais demander aux auditeurs d'écouter avec nous de la musique pendant que je vais prendre connaissance des appels de nos auditeurs. Eh ben, j'attendais que ce soit le rouge, je suis très mal en ce moment. Je regardais le voyant en disant, bon, il passe au rouge, et il était d'un rouge vif, naturellement. Alors, c'était Elisabethane Sérénade, ce qui veut dire Sérénade Elisabethaine, je crois.
Oh, hein. Comme c'est bien traduit.
Oui. C'est d'un disque dont le titre est, hélas, les plus belles mélodies d'Europe. Vous vous rendez compte que ces gens-là, force, sont arrivés à nous faire détester jusqu'au mot Europe. C'est quand même incroyable, hein. On finit par... C'est terrible d'en arriver là. Bon. Alors on revient au livre de Jean-Pierre Fabre, au passionnant livre de Jean-Pierre Fabre, Les Feux Meurtriers, qui est un recueil, un récit d'une série d'enquêtes et d'une série de cas extrêmement mystérieux, de combustion spontanée, on peut appeler ça comme ça, ou de combustion mystérieuse inexpliquée. Alors, on a parlé de celle que vous avez appelée la gentille dame du Ruf.
Tout à fait, oui.
Qui a été donc retrouvée, on l'a dit, calcinée pour la partie supérieure de son corps, à l'exception des jambes, ce qui est quand même extrêmement étrange, dans l'appartement de son fils, appartement inoccupé, portes et fenêtres fermées. Et cette affaire est tellement mystérieuse que toutes les hypothèses, y compris, comme disait Sherlock Holmes, quand toutes les hypothèses raisonnables ont été envisagées, c'est l'hypothèse déraisonnable qui est la bonne. Alors Philippe Varley, appliquant strictement la loi holmesienne, dit ben, « Est-ce que c'est pas un voisin irascible qui l'aurait carbonisé au rayon laser ?» On rit tous, et puis vous nous dites quelque chose, c'est que... Vous avez poussé l'enquête jusque-là, vous avez
été... Oui, c'est-à-dire qu'on a eu, la gendarmerie, suite à cette affaire, évidemment, qui avait paru dans la presse,
la gendarmerie a eu un certain nombre de lettres, comme ça se passe, de lettres anonymes, et a reçu même une lettre non anonyme, d'ailleurs, d'une personne lui disant, voilà, moi je sais ce qui s'est passé, c'est un rayon laser qui provient d'un appareil de chasse, parce qu'il y a une base aérienne pas très loin de Metz-Frescati, c'est ce rayon laser qui l'aurait détruit. Évidemment, on a quand même regardé un petit peu ce qu'il en était, mais on a très vite abandonné, évidemment, l'hypothèse du rayon laser. Mais pour vous dire qu'en effet, on a tout
toutes
regardé.
Les hypothèses ont été...
On a regardé les hypothèses, on a même regardé une chose. Je me suis aperçu que lorsqu'elle a été calcinée, n'était pas calcinée, comme je vous l'ai dit, les membres inférieurs, plus le bras gauche. Alors, je me suis dit, il y a peut-être un effet. C'est que si elle tenait un pulvérisateur de la main droite, il est certain que quand vous pulvérisez avec la main droite, il y a deux parties que généralement vous ne pulvérisez pas, c'est le bras droit puisque vous le tenez de la main droite et c'est la partie inférieure. Donc on a essayé
de parfum.
On a essayé sur le parfum déodorant et on a essayé surtout sur une chose et les enquêteurs se sont penchés sur ce problème, il y avait à ce moment-là une bombe insecticide. Cette bombe insecticide était pas très loin du corps. Donc ils se sont dit la bombe insecticide a peut-être un rapport avec ça. Seulement le problème de la bombe insecticide, c'est qu'une bombe insecticide en effet peut faire chalumeau. Je vous ai dit que la chaleur était considérable, elle peut faire chalumeau. Mais pour qu'elle fasse chalumeau, il faut continuer avec le doigt à appuyer tout le temps. Mmh. On voit mal quand même cette brave dame continuant avec le doigt à appuyer tout le temps pendant
jusqu'à
ce temps-là. Jusqu'à ce qu'elle
soit... Avec le doigt gauche.
Évidemment.
Elle était gauchère ou droite?
Non, avec le doigt droit, puisque c'est la main droite qui est restée, le bras gauche qui a été carbonisé.
Voilà. J'avais compris que le bras gauche était intact.
Non.
Alors, ça me fait penser quand même à une affaire dont on a eu... l'écho par la télévision il y a quelques mois, c'est cette affaire absolument atroce de ce jeune homme qui était dans son pavillon et qui a vidé une bombe insecticide dans le pavillon parce qu'il était envahi par les mouches ou les moustiques ou les fourmis, je sais pas. Et puis ensuite, il est resté dans ce pavillon, il a allumé une cigarette et à ce moment-là, il s'est passé une explosion absolument terrible de température. Au moment où il a allumé son briquet, tous les meubles ont fondu, tout l'intérieur du pavillon a brûlé, lui-même a littéralement fondu, il a été miraculeusement sauvé, mais on a vu ces photos qui ont été, on l'a vu à la télévision, puisqu'il est venu témoigner, lui, pour dire, écoutez, il faut absolument faire interdire ces bombes dont les gaz propulseurs sont des gaz extrêmement explosifs, et on a vu un personnage, enfin un homme, qui était littéralement fondu, c'est-à-dire qu'il n'avait plus, ses doigts avaient fondu, son visage avait totalement disparu. Son visage était une masse de chair informe. Et il est comme ça, il est toujours vivant. Il a survécu absolument par miracle. On ne s'explique pas sa survie. Mais peut-être que, effectivement, cette histoire d'insecticide ou de bombe pourrait apporter un début d'explication.
Alors, ça a été la thèse des enquêteurs, et les enquêteurs et les experts se sont penchés sur cette bombe de manière très forte. Alors, ils ont fait des tas d'expériences même sur des animaux morts, je précise bien morts, en essayant de mettre à l'intérieur d'un lapin dont on avait ouvert le ventre, essayant de voir avec du gaz, un espèce de gaz correspondant au gaz qui se trouve dans les bombes insecticides, et on n'a rien trouvé. C'est-à-dire que chaque fois le même problème se passait, c'est que vous en avez parlé tout à l'heure d'explosion, c'est que c'était très rapide, mais il n'y avait pas de calcination, de combustion qui dure pendant un certain temps. Or, pour arriver au résultat dont je vous parle, il faut des heures. Pour arriver à calciner un corps à ce niveau-là, il faut des heures. Vous m'avez dit tout à l'heure que dans le cas, et en effet, c'est un cas que j'ai vu aussi à la télévision, ça s'était produit brutalement. Oui. C'était quelque chose qui s'était produit sur le moment.
Mais il n'y a pas eu de calcination. Il y a eu
très graves. Et voilà, il y a eu tout à fait ce qui paraît logique. Donc il est certain que la bombe aurait pu avoir un effet au niveau de l'incendie. Mais on voit mal comment elle aurait pu avoir un effet au niveau de la calcination. D'autant plus que les deux derniers détails intéressants, c'est que le premier, lorsque les enquêteurs, je vous ai dit qu'il y avait de la suie un peu partout. Lorsque les enquêteurs ont regardé la cuisine, ils ont vu au-dessus de sur une cheminée qui était désaffectée, qui ne fonctionnait plus, ils ont vu la trace de la bombe insecticide, c'est-à-dire il y avait un rond blanc. Ce qui veut dire par conséquent que cette bombe, voilà, qu'elle était là au moment où déjà la combustion se produisait. Le deuxième point, c'est qu'elle
aurait donc volé ou elle aurait été propulsée.
Elle aurait été propulsée certainement par la chaleur. À ce moment-là, les gaz à l'intérieur se seraient certainement compressés et à ce moment-là, elle serait tombée à ce moment-là. Et ouais. Comme la cuisine n'était pas très loin de l'entrée, elle aurait pu rouler et à ce moment-là, elle aurait pu arriver.
Bon. Incroyable.
Le deuxième point, c'est qu'on a fait des analyses sur un tout petit bout de soutien-gorge qui restait. Et ce petit bout a montré qu'il n'y avait rien à voir, a priori, avec les gaz en question, qui sont des gaz très forts et qui sont très connus au niveau des chimistes. On n'a rien trouvé là non plus.
Alors, nos auditeurs s'amusent à nous envoyer des hypothèses. Il y en a un qui dit, mais est-ce qu'elle n'aurait pas été électrocutée en faisant sa toilette avec un objet quelconque, un radiateur, une brosse à dents électrique, un rasoir?
Tout à fait. Alors, bonne question. Réponse. L'électricité n'avait pas bougé. Il n'y avait aucune coupure électrique. Il n'y avait rien. Hein. Au niveau électrique, on n'y a pas évidemment pensé tout de suite. Il n'y avait rien là-dessus. Hein.
Un autre auditeur dit, cette dame avait-elle manié de l'éther ou avait-elle l'habitude d'en manier? C'est un auditeur qui travaille dans les blocs opératoires qui doit être donc très très prévenu contre les dangers de l'éther.
C'est vrai que l'éther a cet effet-là. Moi je crois d'ailleurs qu'il faut à ce moment-là, à ce stade-là quand même, vous donner un élément d'appréciation des médecins et des médecins légistes. C'est les médecins légistes, évidemment, on a été les trouver déjà avant, on leur avait posé cette question, puisque c'est le phénomène d'autocombustion spontanée, on a eu des cas qui se sont produits en 1700 et quelques, hein, dans l'histoire. Alors, les médecins légistes, pour expliquer ça, certains médecins légistes, d'autres, je dirais, sont beaucoup plus circonspects, mais certains médecins légistes disent, écoutez, faut prendre l'exemple de la bougie. Pour eux, le corps humain, c'est la bougie. Vous avez la mèche qui est constituée par la peau et vous avez le suif qui est constitué par la graisse. Et pour eux, un corps humain, ça brûle tout doucement. C'est-à-dire que s'il y a des circonstances qui font que il n'y a pas énormément d'oxygène, par exemple, dans la pièce, si la personne était assez bien portante, si elle avait peut-être un certain âge.
Pourquoi vous riez en me regardant?
Ouais, je pourrais pratiquement en dire autant, hein. Alors, je crois qu'on est plusieurs dans ces cas-là. À ce moment-là, eh bien, il y a ce qu'ils appellent le phénomène bougie, c'est-à-dire qu'un corps peut brûler pendant des heures comme ça, tout doucement, tout doucement. Alors, moi, je veux bien, mais à ce moment-là, il y a une question qui se pose, c'est pourquoi, quelquefois, c'est ça, et pourquoi, la plupart du temps, on retrouve des gens calcinés tout à fait normalement. Alors, ça, c'est une chose qu'ils ne sont pas capables de vous expliquer. Alors, c'est toujours facile de donner une explication, et vous savez que les scientifiques ont toujours une qualité extraordinaire, c'est qu'ils arrivent toujours à vous donner une explication.
Alors, on va en rester là avec l'affaire de la gentille dame du Ruf. Un détail près, je voudrais que vous le disiez vous-même, puisque c'est le détail étrange, curieux, c'est la cerise sur le gâteau, si j'ose dire, dans des circonstances comme ça.
Oui, deux détails curieux même. Le premier, c'est que lorsqu'il a fallu passer par la fenêtre, il a fallu prendre une échelle. Et cette échelle, elle a été prise dans le bâtiment d'à côté, et le bâtiment qui était en face de l'école et de la mairie, c'était l'église. Je n'ai pas besoin de vous rappeler ce qui s'était passé quelques années auparavant.
À Uruf, oui, ben c'est là, on se souvient. Enfin, il faut quand même peut-être rappeler en deux mots la terrible affaire du Ruf.
L'affaire de l'abbé de Noyers, où l'abbé de Noyers donc avait tué sa maîtresse et l'enfant viable qu'elle portait.
Après l'avoir baptisé.
Après l'avoir baptisé, tout à fait. Tout à fait. La deuxième point bizarre, c'est que Madame Kachmerzak, lorsqu'elle habitait chez son fils, avait une chambre, et au-dessus de son lit se trouvait une vue de la maison de Jeanne d'Arc. Ce jour-là, suite à cette affaire, suite à la chaleur, ou suite à ce que vous pouvez imaginer, eh bien, cette photographie de la maison de Jeanne d'Arc est tombée sur le lit de Madame Kachmerzak et, je dirais, était à la place du corps de Madame Kachmerzak aurait dû occuper.
C'est tout à fait étrange. Enfin, voilà des détails. C'est intéressant. Alors,
c'est intéressant en soi. Mais ce que je trouve tout à fait passionnant dans ce que vous nous racontez, c'est que c'est démonstratif du travail de la gendarmerie. Moi, je suis frappé par une chose dans ce pays, c'est assez typiquement français, ça. C'est que la gendarmerie est probablement le corps qui sait le plus de choses sur les faits mystérieux ou inexpliqués, ou les faits en général, ou les faits de société, ou les phénomènes sociaux qui agitent ce pays. Pour une raison très simple, c'est que, à l'exception des grandes villes, dans tout le pays, dès qu'il y a le moindre problème, c'est-à-dire s'il y a un chien qui paraît enragé, s'il y a un cheminot, je veux dire un promeneur de grand chemin qui paraît bizarre, s'il y a une valise oubliée sur le bord d'une route, etc., on appelle la gendarmerie. Donc les gendarmes sont sans arrêt informés de ce qui se passe, et pour des raisons évidentes, ils font sans arrêt des rapports. Donc les archives de la gendarmerie, c'est un formidable réceptacle, un formidable réservoir conservatoire des phénomènes étranges, inexpliqués, bizarres, paranormaux, on dira tout ce qu'on voudra. Et à chaque fois, c'est fait avec une précision de gendarme. C'est-à-dire que ce détail-là, qui paraît un détail inventé par un romancier, hein, l'histoire de la photo de la maison de Jeanne d'Arc qui tombe sur le lit à la place qu'aurait dû occuper le corps de Madame Cachemirzac, ben c'est pas un détail inventé par un romancier, c'est une ligne de rapport de gendarmerie. Et au fond, quand on a l'habitude d'enguirlander un journaliste qui fait un papier ennuyeux en lui disant « Ton papier, on dirait un rapport de gendarmerie », c'est d'une injustice terrible, parce que les rapports de gendarmerie sont pas toujours ennuyeux.
C'est tout à fait vrai, et c'est un petit peu la démarche d'ailleurs. La démarche que j'ai eue, c'est celle-là, c'est de se dire que la gendarmerie, ayant des connaissances de beaucoup de phénomènes, et pas simplement en effet que des phénomènes judiciaires, il était peut-être intéressant de voir ces phénomènes dès les études. De près. Mais moi, ça me rappelle une affaire que j'ai décrite dans le premier livre et qui montre, je crois, combien la gendarmerie, justement, est proche. C'est une affaire de meurtre tout à fait banale sur laquelle je n'insisterai pas. Mais la personne qui avait tué était un paysan, c'était un Auvergnat, un type dur, un type qui n'avait pas l'intention de dire quoi que ce soit aux flics, qu'ils soient policiers et gendarmes. Et ça faisait à peu près une vingtaine d'heures qu'il était en garde à vue et il s'obstinait à ne rien dire, pas dire un mot, même pas expliquer son geste. Il avait d'ailleurs pas avoué son geste, mais même pas expliquer ce qu'il avait fait pendant ce temps-là. Et au bout de 20 heures, un certain nombre de ces enquêteurs sont partis, et il est resté là, un vieux gendarme, qui était un type qui, depuis des années, était dans la même brigade, et ce type, à ce moment-là, s'est mis en face de lui et a commencé à lui parler en patois. Et là, le type a tout avoué. Parce qu'il avait en face de lui quelqu'un qui correspondait. Et je crois que c'est ça l'avantage de la gendarmerie, c'est qu'elle correspond aux gens du cru. Elle fait partie du paysage, elle est le paysage, elle est fondue complètement, elle est fondue dans le paysage. Et si elle perd ça, un jour, je crois qu'elle perdra son âme. Tant qu'elle gagne ça, tant qu'elle reste comme ça, je crois qu'elle restera un corps assez exceptionnel. Qui d'ailleurs...
Elle a une excellente image, il faut dire, en général.
Oui.
L'image... Bon, moi, je regrette Excepté une
la
chose...
Route, oui.
Ouais, non, mais ça... Un jour, je ferai une émission sur ce sujet. Je regrette qu'on fasse effectuer le travail de surveillance de la route par les gendarmes et le travail de surveillance de la circulation par les policiers. Je trouve qu'on devrait les enlever de cette fonction, confier ça à des brigades à qui on mettrait des uniformes vert pomme ou rouge vif, peu importe, mais des gens qui ne feraient que ça. Et réserver à la police et à la gendarmerie les tâches de sécurité publique. Parce que ce mélange fait qu'effectivement, quand on est arrêté par un gendarme, on dit « Ah, les salauds !» etc. Et puis 10 minutes après, quand on est importuné par un rôdeur, on appelle les gendarmes au secours et on les trouve très gentils. Mais il faut pas mélanger. Je veux dire, ça, c'est fou de leur faire faire ce boulot. Mais quand ils font leur boulot de gendarme, c'est un corps extraordinaire. Je me souviens que Jacques Bergier, le grand Jacques Bergier, l'auteur du Matin des magiciens avec Paul Wells, me disait souvent la France est le pays au monde où il est le plus difficile de faire de l'espionnage. C'est pas du tout l'Union soviétique où une fois qu'on est dans le pays, on peut faire à peu près ce qu'on veut parce que personne s'intéresse à vous, étant donné que les gens sont absolument ahuris par leurs conditions de vie, la nécessité de bouffer, etc. C'était à l'époque, c'était dans les années 70 qu'il disait ça. Mais il disait en France, c'est très très difficile de faire de l'espionnage parce que vous avez tout le temps les gendarmes sur le dos. Tout le temps. Alors bien sûr, il y a des exceptions. Il y a la navrante exception d'Action Directe qui a pu séjourner pendant des mois dans une ferme
une ferme, oui, tout à
sans
fait.
Être repérée. Encore que
Moi, je trouve cette histoire bizarre. J'ai bien l'impression qu'on les avait tout à fait repérés, mais que des ordres supérieurs ont interdit qu'on aille les déloger. Et puis ça se viendra peut-être au clair un jour ou l'autre. Mais en général, c'est vrai que, alors pour en revenir à notre affaire, les archives de la gendarmerie sont probablement une mine extraordinaire un réservoir extraordinaire de faits inexplicables, étranges, paranormaux et tout. Et puis, il y a un autre phénomène qui se passe, c'est le mécanisme investigateur du gendarme, que vous avez, vous, complètement, qui fait partie de votre personnalité, et qui fait que, quand vous avez écrit votre livre, vous n'êtes pas contenté d'analyser l'affaire de la gentille dame du Ruf, qui n'est qu'une petite partie du livre. Vous avez traité aussi beaucoup d'autres affaires, mais surtout, vous êtes allé dans l'histoire. Et alors là, on tombe sur des choses ahurissantes, des phénomènes avérés, enfin des affaires avérées de combustion spontanée, qui sont absolument ahurissantes. Je pense par exemple à cette affaire qui s'est passée le 19 février 1888, que vous racontez brièvement, un soldat britannique qui s'endort ivre-mort dans un grenier à foin. Et on va le retrouver entièrement calciné. Et alors, chose très très bizarre, le foin sur lequel il est couché n'a même pas roussi.
Ah oui, c'est vrai. C'est
très 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 bizarre. Vous parlez d'un autre cas qui est l'affaire de la comtesse di Bandi de Cenesa en Italie, personne honorable et d'une sobriété exemplaire, dites-vous. Et alors là, dont la mort est relatée par un prêtre, le révérend Joseph Bianchini de Vérone, et vous racontez comment elle aussi, elle a été trouvée carbonisée, calcinée. Un peu dans les mêmes conditions, d'ailleurs, que la dame du Ruf, puisque ses jambes étaient intactes.
Tout à fait.
Mais elle, comme ça se passait en 1731, on peut difficilement imaginer qu'elle ait eu recours à une bombe insecticide.
Oui, 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 tout à fait. Ou à un rayon laser, d'ailleurs.
Ou à un rayon laser.
Tout à fait.
Et il y a plein d'autres exemples que vous donnez, et qui sont tellement nombreux que, comme vous le dites, ça a fait la fortune littéraire d'un thème macabre.
Tout à fait, tout à fait.
Et alors, on retrouve, des auditeurs nous téléphonent pour nous dire, mais pourquoi ne parlez-vous pas de Zola,
oui.
Voilà, de Balzac.
J'en parle dans mon livre.
La série des Rougon-Macquart, le médecin. Mais lui, il était imbibé d'alcool, il fumait la pipe. Donc, vous en parlez, vous, dans votre livre.
Tout à fait.
En expliquant que Zola avait eu peur. Enfin, il a fait un reportage formidable sur les combustions spontanées. Mais en quelque sorte, il a eu peur de ses propres conclusions. Et il a donc trouvé cette explication rationaliste de la pipe et de l'alcoolisme, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté de fumer, il fallait choisir, qui fait que peut-être le docteur Pascal s'est enflammé comme ça. Maintenant, un autre auditeur nous dit que... attendez, où est-ce que j'avais mis ça? Oui, c'est ça. Dans l'encyclopédie de Diderot, il serait question, nous dit-il, de la combustion spontanée qui est décrite dans l'encyclopédie de Diderot. Ce qui veut dire, il dit probablement à la rue, probablement, dit-il à la rubrique ressort, ce qui veut dire que c'est un phénomène qui n'est pas d'aujourd'hui et qui a toujours fasciné, comme vous le dites.
Toujours fasciné. Je crois qu'il a fasciné à partir du moment où il y avait la notion de flamme, parce que la notion de flamme renvoyait à la notion d'enfer.
Ouais, on a beaucoup d'appels là-dessus qui nous disent, pensez-vous que ça puisse être, on peut donner une explication religieuse, est-ce que ça peut être l'action des forces du mal? Cette chose horrible ne peut être que l'œuvre du malin.
Quelqu'un dit seul un coup de foudre peut expliquer ces conditions.
Alors, il y a l'explication de la foudre. Alors, d'abord, l'explication entre guillemets métaphysique ou préternaturelle.
Oui,
qu'un gendarme la reçoit? Est-ce qu'il s'y intéresse ou pas du tout?
Ah ben, moi, je crois qu'un gendarme doit s'intéresser à tout. Hein, et c'est évident qu'on ne peut pas laisser de côté même des explications surnaturelles.
Surtout un gendarme marié à l'église, même orthodoxe, je dirais.
Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, merci. Voilà un détail de ma vie qui au moins sera signalé aux auditeurs. Il est certain, comme je le disais, que le problème de tout ceci, c'est que les flammes ont toujours fasciné. Il y a toujours un rapport entre les flammes, entre le mal. Et très souvent, au départ, dès le XVIe siècle, XVIIe siècle, on a considéré que les gens qui étaient carbonisés dans des circonstances comme ça, tout à fait dramatiques et assez extraordinaires, étaient des gens qui pouvaient ou alors avoir affaire au malin, ou alors étaient des gens qui avaient commis des péchés, notamment le péché essentiel où on alliait à la fois le côté surnaturel et je dirais le côté très matérialiste, c'était l'ivrognerie. Hein. Là, on voyait l'alcool, alors on voyait l'alcool et en même temps, le type se laissait aller et ça amenait un jour à ce que il y ait une punition divine qui arrive à le foudroyer. Alors ça a été la première élément. Puis on s'est aperçu quand même, on a très très rapidement vu que c'était pas possible parce que vous savez qu'un corps humain possède à peu près 80%, 75 à 80% d'eau. Donc si un corps humain devait brûler simplement par l'alcool ne représente pratiquement rien par rapport au corps. Si l'alcootesse représente quelque chose, l'alcool ne représente rien par rapport au corps. Donc ça, on a très vite mis écarté ceci. Ensuite, il y a eu en effet ce problème du phosphore. C'est vrai que le corps contient du phosphore. Mais toujours le problème est le même. Comment enflamme-t-on le phosphore?
Le phosphore, il s'enflamme au contact de l'air, spontanément.
Mais
il faut qu'il soit au contact de l'air.
Voilà. Comment arrive-t-on à ce moment-là au contact de l'air? Ça paraît difficile. Donc ça a été étudié aussi, ça a été mis de côté. Enfin, il y a eu toute une série d'études comme ça qui ont été menées par un certain nombre de scientifiques et d'historiens jusqu'au début du XXe siècle pour essayer d'expliquer. Alors il y a eu les gaz aussi, on a parlé des gaz, en fait un peu trivial, mais toute une série de gaz intestinaux qui pouvaient, par un phénomène d'explosion, peut-être arriver à ça. Enfin, l'explosion là-dessus...
Je me souviens, il y a quelques années, tant pis, puisqu'on a commencé à être dans la trivialité, allons jusqu'au bout, il y a quelques années, dans une chambrée militaire, il y a des jeunes gens qui s'amusaient à vérifier la capacité, enfin l'inflammabilité des gaz dont vous venez de parler, et il y en a un qui l'a vérifié douloureusement, puisqu'il a tout simplement subi des brûlures épouvantables, puisque la flamme n'a pas suivi le chemin qu'on prévoyait, et qu'elle a brûlé l'intérieur du corps.
C'est ce qu'on appelle un retour de flamme.
C'est ce qu'on appelle un retour de flamme, je pense. Donc, non mais c'est pas absolument impossible, mais on en reste toujours à cette
toujours
question.
Toujours le même problème.
Quel
le
est
départ.
Le déclencheur.
Voilà, le déclencheur, le départ.
Est-ce que vous pouvez rassurer une de nos auditrices? Elle demande si la personne questionnée ne portait pas un pacemaker. Parce qu'elle, elle doit en porter un bientôt, et ça l'inquiète.
Alors, pas inquiéter les gens qui
voilà. Alors, je tiens à dire à toutes les personnes qui ont 50 ans, de sexe féminin, et qui ont eu qui portent des bas nylons, qu'elles ne brûleront pas, ne cassineront pas.
Cette dame n'a pas
ce pacemaker, là, on me pose une question que je n'ai pas étudiée, mais non, elle ne portait pas de pacemaker. Ça, c'est sûr, elle ne portait pas de pacemaker. Par contre, il y a une chose quand même qui est assez intéressante à souligner dans tous les cas en question. On va revenir toujours sur le phénomène bizarre, parce que moi, ce que j'ai essayé de voir, c'est chaque enquête l'une après l'autre, mais en même temps, essayer de voir dans toutes ces enquêtes s'il y avait des points communs. Et on s'aperçoit d'une chose un petit peu surprenante, c'est qu'il y a une certaine anormalité de ces gens-là. C'est-à-dire, ce sont des gens hors normes, ou ce sont des gens solitaires, des gens seuls, qui ont perdu de la famille et qui se sont retrouvés seuls. Ou ce sont des gens qui se sont d'eux-mêmes un petit peu mis en retrait ou de la société. Ou alors ce sont des apatrides. Ou alors ce sont des gens qui ont une infirmité, par exemple l'une des personnes, Léon Éveillé, bégayé. Mmh. C'est-à-dire que ces gens-là sont toujours des gens qu'on retrouve isolés du reste de la société, et c'est ces gens-là à qui ça arrive. En fin de compte, j'ai pas trouvé, par exemple, d'exemple d'une mère de famille avec 3 enfants qui aurait pris feu pendant que ses enfants étaient à l'école, et donc qui serait choyée chez elle. Il y a toujours un phénomène.
Vous citez l'exemple tout à fait stupéfiant d'une jeune Anglaise qui est dans son lycée, elle est au lycée, elle est au collège, elle est en train de parler avec des camarades sur le palier, je crois,
tout à fait,
dans l'escalier du lycée.
C'est ça, au début du lycée, elle prend feu.
Et ça se passe il y a 3 ans, c'est en 1990.
C'est très récent, ouais. C'est très récent.
Et elle prend feu. Alors, ses camarades...
On l'éteint et elle reprend feu, d'ailleurs,
ses camarades
plusieurs fois.
Lui jettent des seaux d'eau.
Oui.
À ce moment-là, les flammes disparaissent, mais dès que l'eau est partie, les flammes repartent, ce qui est tout à fait significatif, enfin, comment dirais-je, oui, significatif de la présence de phosphore. Le phosphore réagit comme ça. Si on jette de l'eau, il s'éteint, et dès que l'eau s'est écoulée, il se rallume.
Et elle va mourir quelques heures plus tard, de brûlure dans un hôpital où elle a été transportée. Alors, cette jeune fille n'était pas une solitaire, elle était...
Non, mais je parlais des solitaires pour les personnes que j'ai étudiées en France. Il est toujours plus difficile à l'étranger à l'étranger, on est obligé de prendre des faits qui sont relatés dans des livres, et que vous n'avez pas vous-même, je dirais, visualisé ou d'une certaine manière vu les procédures. Alors moi, j'ai préféré, comme cet homme a touché du doigt pratiquement, en ayant cette conception, hein, cette conception de mon métier d'écrivain pour ce cas-là. Et c'est pour ça, si vous voulez, que j'ai réalisé dans ces cas-là ce côté un petit peu en dehors du système de ces gens-là, avec une certaine tristesse très souvent. Ce sont des gens tristes, des gens qui dans leur vie ont eu des malheurs.
Alors, une auditrice nous dit en Corée et aux Indes, le phénomène est fort connu et on l'attribue à la désintégration du corps sous l'action de l'esprit, qui pourrait peut-être aller dans le sens de ce que vous expliquez. C'est les phénomènes qu'on appelle aussi les phénomènes d'hystérie.
Tout à fait.
Une forme d'hystérie.
Il y a eu des phénomènes très curieux. On s'est aperçu, par exemple, hein, les gens ne le savent pas trop, mais lorsque vous avez quelqu'un qui éprouve une vive colère ou un grand sentiment, vous savez qu'il devient rouge, et à ce moment-là, la température du corps s'élève très fort.
Je vous demande une seconde, parce qu'on va faire le basculement de cassette, et puis on reprend et on termine cet entretien, si vous voulez.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dans le cadre des archives de Radio Courtoisie, voici le libre journal de Serge de Bekech du 23 juin 1993, diffusé dimanche 25 janvier 2015 dans la nuit de 2h à 5h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Jean-Pierre Fabre, encore deux ou trois mots sur votre livre passionnant, Les Feux Meurtriers, paru dans la collection Les Enquêtes Mystérieuses aux éditions Michel Lafon, Anne Carrière, ou Anne Carrière, Michel Lafon, je ne sais pas dans quel ordre il faut dire. Anne Carrière, il faut dire la première, la dame, et puis ensuite.
Voilà, exactement.
Et d'autant que ça confirme l'ordre alphabétique. Donc, aux éditions Anne Carrière, Michel Lafon, Les Feux Meurtriers. Un auditeur, on citait les précédents, on a parlé de Zola, on a parlé d'autres précédents, mais un auditeur nous dit que Sainte-Beuve, dans Port-Royal, à la page 173 de l'édition de la Pléiade, tome 2, on peut difficilement être plus précis, écrit il y a plus de 100 ans que ce phénomène, de ce phénomène aujourd'hui bien connu de combustion spontanée, et il en parle à propos du corps d'une femme veillée par un prêtre qui avait pris feu spontanément.
Mark Twain en a parlé aussi.
Mark Twain en parle. Alors, c'est ça qui est assez frappant, au fond, parce que on peut dire que le phénomène lui-même des combustions spontanées des corps, bon, il est curieux, il est étrange, mais il ne mérite pas tellement des développements interminables. En revanche, ce qu'il apporte, ce que votre enquête et votre livre apportent comme information, comme lumière, c'est le fait que il y a des phénomènes comme ça qui se reproduisent régulièrement et de façon suffisamment significative pour que des personnages aussi éminents que Diderot, que Sainte-Beuve, que Zola, que je les mets pas du tout sur le même plan, je précise à l'attention de mes auditeurs, parce que je me fais encore engueulader parce que j'ai dit que Zola était comme Sainte-Beuve ou comme Diderot. Donc, je mets pas tout ce monde-là dans le même sac. Donc, des personnages aussi éminents dans la littérature française se sont intéressés à ce sujet, en ont parlé longuement, et que la gendarmerie française est là tranquillement, positivement, posément, sereinement, accumuler les enquêtes, les cas, les dossiers, et elle les a gardés dans ses archives. Donc, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est le côté trésor de la mémoire que peut représenter le travail de, enfin, 4 siècles de travail de la gendarmerie.
Oui.
Et là, vous en avez donné un premier exemple avec un livre qui était passionnant, qui s'appelait Crimes au village, qui était une recension de ces fameux crimes villageois qui ont fait les beaux jours de détective dans les années 50. Et maintenant, vous en donnez un deuxième exemple avec les feux meurtriers. Et je voudrais, pour terminer, vous poser la question qui est posée par un auditeur et qui vient évidemment à l'esprit quand on vous parle, c'est la question du précédent Tisané, puisque il y a eu avant vous un gendarme qui s'appelait le commandant Tisané, dont vous avez très certainement entendu parler, et qui, une fois à la retraite, s'était fait une spécialité de livres sur les soucoupes volantes, sur les phénomènes paranormaux, sur les maisons hantées, sur tous ces sujets bizarres que la gendarmerie a traités. Alors, ma dernière question, c'est la suivante. Est-ce que vous ambitionnez de prendre la succession du commandant Tisané?
Non, pas du tout. Je vous ai dit déjà que ma démarche de départ n'était pas du tout la même, parce que c'était une démarche très rationnelle. Mais je pense, par contre, que la gendarmerie a en effet des ressources considérables au niveau des archives. Je regrette d'ailleurs que tout, même en gendarmerie, un certain nombre d'archives soient perdues, parce que vous savez très bien qu'il faut les entasser, il faut les mettre, ça occupe du volume, et puis il y a l'oubli, et petit à petit, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui se perdent. Et même s'il y a un travail, et je tiens à le dire ici, remarquable qui a été fait par un certain nombre de gens qui s'occupent actuellement des archives de la gendarmerie, qui se trouvent au Blanc, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de ces archives qui sont tentées, qui sont amenées petit à petit à disparaître. Je crois simplement que la série Enquête mystérieuse est faite surtout pour montrer que il n'y a pas dans notre monde que des affaires simples, et qu'il peut y avoir des affaires très bizarres. Je vous dirais que le deuxième livre en préparation que j'ai est un livre sur les crimes de la pleine lune. Je crois qu'il peut y avoir en effet des choses qui vont passionner, qui passionneront les gens et qui sont vraies. Vous avez dit tout à l'heure que on n'a pas besoin souvent d'écrivains, ou on n'a pas besoin de scénaristes, et qu'il arrive que la réalité dépasse la fiction. Et je crois que ça, il était intéressant, et c'est un peu la tâche que je me suis fixée de le montrer.
Merci Jean-Pierre Favre. Alors, je rappelle le titre de votre livre, c'est Les Feux Mystérieux. Il est paru chez Anne Carrière et Michel Lafon, et on le trouve dans toutes les bonnes librairies.
Tout à fait.
Merci, à bientôt. On parlera à ce moment-là des crimes de la pleine lune quand vous aurez mis la dernière main à cet ouvrage. Qu'est-ce qu'il y a, Philippe? Vous voulez qu'on mette un peu de musique, peut-être? Alors, mettons un petit peu de musique pour faire la valse des tabourets autour des micros. Eh bien, nous voilà prêts à entamer la deuxième partie de cette émission. Autour de cette table et au micro, alors je vais dire dans l'ordre où je les regarde. Devant moi, en face de moi, Maître Georges Paul Wagner, avocat plus que connu, célèbre, célébrissime pourrait-on dire. Mais surtout, philosophe contemporain, j'ai envie de dire, hein, qui réfléchit sur son époque et qui publie d'ailleurs toutes les semaines dans Présent un remarquable billet, plus qu'un billet,
une promenade,
chronique,
qui
s'appelle une promenade dominicale.
Une promenade, oui.
Et puis à la droite de Maître Georges Paul Wagner, sans que ça n'engage rien politiquement bien entendu, Reynald Secher, qui est historien. Est-ce qu'on va dire encore longtemps un jeune historien? C'est ça la question. Quand on parle de Reynald Secher, on dit toujours un jeune historien.
Vrai.
Jusqu'à quand ça va durer?
Ben oui,
je suis plus un jeune journaliste. Et à la gauche de Maître Georges Paul Wagner, Michel de Gégère, qui est rédacteur en chef de Spectacle du Monde, mais qui n'est pas là à ce titre, qui est là au titre de, en quelque sorte, inspirateur,
coordonnateur.
Merci. Tu es très bon. Ben. Ah non, il faut pas que je tutoie. Oh là là, je me suis fait... j'ai pratiquement juré que je ne tutoierais plus mes invités à la fête de Radio Courtoisie. Il y a un monsieur qui est venu me voir, qui m'a dit, monsieur... Ne tutoyez jamais. Alors, j'ai compris. Je dis vraiment, tu crois qu'il faut pas que. Alors donc, Michel Valadi, vous connaissez très bien les titres. Donc, coordonnateur de l'université d'été de Renaissance catholique, et vous-même, vous êtes secrétaire général de Renaissance catholique. Et vous allez nous expliquer tout à l'heure, techniquement, comment va se dérouler cette université d'été, qui doit être un événement, parce que son sujet est passionnant et c'est un sujet qui qu'on va évoquer, dont on va évoquer certains aspects. Ce soir, c'est le sujet du bicentenaire, bien entendu. Et la semaine dernière, on a évoqué avec Jean Dumont la question de la persécution religieuse et la question de savoir si c'était une simple bavure de la Révolution ou un plan concerté. Et là, je crois que Michel de Gégère voudra revenir en deux mots sur peut-être un malentendu qui aurait pu s'installer à la suite de l'intervention du professeur Dumont ou une mauvaise compréhension de la part de certains auditeurs. On avait reçu également, on devait recevoir M. Claude Paulin, mais qui n'a pas pu venir, et qui devait parler des sources de la pensée contre-révolutionnaire. Et ce soir, avec Georges Paul Wagner, on parlera d'un sujet qui est, alors lui, complètement au centre de la question, c'est la question des droits de l'homme et de leur confrontation avec le droit naturel. Est-ce que les droits de l'homme sont conformes au droit naturel, ou est-ce qu'ils sont en contradiction avec le droit naturel? Et puis avec Reynald Secher, on parlera d'un sujet qu'il possède mieux que n'importe qui, puisqu'il s'agit de cette affaire, de cette affaire du génocide vendéen qu'il a en quelque sorte relancé à l'occasion du bicentenaire, non sans un certain effet de scandale d'ailleurs, puisque on a reproché à Reynald Secher d'avoir utilisé le mot génocide, qui est une espèce de mot maintenant réservé ou interdit. Alors on parlera de cette question. Ça sera. Et puis on parlera de l'organisation de l'université d'été de Renaissance catholique. Et on expliquera comment et à quel prix on peut y aller. Mais avant, conformément à la tradition, nous avons, je crois, Monsieur Marc Dehme qui est au téléphone.
Je suis au téléphone, effectivement.
Écoutez, vous êtes d'une fidélité.
La plus pure tradition.
Oui, vous êtes d'une fidélité qui me touche jusqu'aux autres tréfonds. Êtes-vous en bonne santé?
Oui.
Donc, vous n'avez pas la crampe de l'écrivain après les innombrables signatures que vous avez données.
Nous avons signé beaucoup, c'est vrai.
Oui, j'ai vu que vous étiez très actif à la fête de la Courtoisie. Et, quelle impression générale tirez-vous de cet événement qui s'est déroulé dimanche dernier à la Mutualité?
Oui, eh bien, il m'a fait une excellente impression parce que il y avait beaucoup de gens, il y avait beaucoup d'acheteurs de livres, il y avait beaucoup de contacts. Il y a certaines fêtes où on n'a pas beaucoup de contacts. Celle-ci est une fête où il y a eu beaucoup de contacts. Enfin, en ce qui me concerne, et je crois que c'était vrai pour pas mal d'auteurs présents.
J'ai vu, en tout cas, effectivement. Eh bien, on peut d'ailleurs poser la question également à Michel Valadier, qui, en tant que secrétaire général de Renaissance catholique, était présent également. Michel, quel est votre verdict?
Eh bien, moi, très concrètement, comme cette fête du livre, donc de la courtoisie, de Radio Courtoisie, avait lieu quelques jours après l'émission de la semaine dernière, nous avons parlé de l'université d'été. Nous avons enregistré beaucoup d'inscriptions pour cette université d'été, donc voilà un signe tangible.
Je penserai à ma petite commission, bien entendu.
Voilà donc un signe tangible, et des personnes qui sont venues également au stand de acheter les actes de l'université d'été 1992, dont nous avions parlé pourtant très brièvement lors de l'émission. Les auditeurs seront très attentifs.
Ce livre qui s'appelle Une croix sur le Nouveau Monde, et qui est un livre qui était la recension des interventions lors de l'université d'été de 92 avec des textes de Michel de Gégère, d'Henri Servien, de Jacques Hers, de Philippe Conrad, de Bernard Lugan, de Jean Dumont, de Jean-Pierre Moreau, de Thomas Molnar, de l'abbé Bayot et même, oserais-je dire, de votre serviteur. Mais c'est pas le plus intéressant. Donc, comprenez, moi je suis là pour, comme voiture balai en quelque sorte, pour faire le ménage derrière les autres. Marc, vous publiez donc toutes les semaines, comme on le sait, la lettre confidentielle d'information religieuse Iota Unum.
Oui.
Et vous avez accepté toutes les semaines de nous en donner la primeur dans cette émission. Donc j'attends de vous que vous nous fassiez saliver jusqu'à vendredi, date à laquelle nous recevrons cette lettre, nous qui sommes abonnés.
Eh bien, on peut par exemple évoquer le petit scandale qu'a provoqué le pape en disant que la messe peut être célébrée même quand il n'y a pas de fidèles dans l'église. Il suffit qu'il y ait une... comme le canon 906 le dispose, qu'il y ait un servant de messe, tout au moins une personne qui puisse répondre et qui soit là. Alors, c'est un petit scandale parce que le clergé ne s'en souvenait absolument pas. Et c'est pourquoi les prêtres ne disent plus, pour la plupart, leur messe tous les jours. Ils attendent qu'il y ait 30 personnes, il n'y a jamais 30 personnes, donc ils ne disent plus leur messe. Alors, ce qui est assez curieux, c'est que le concile, pourtant, dit ceci, il est vivement recommandé aux prêtres de célébrer la messe tous les jours.
Mais je suis étonné que vous disiez ça, parce que moi je croyais que c'était une obligation absolue.
Ce ne l'est plus dans la pratique depuis très longtemps. Mais d'autre part, le même concile, et c'est là qu'on voit que les textes du concile permettent toutes les dérives, dans un autre texte, il est dit que la coopération des fidèles est nécessaire. Vous voyez, donc il y a une ambiguïté
qui fait que
chacun a choisi la chose la plus facile, c'est-à-dire de ne plus dire la messe.
Quand il n'y a pas de fidèles, donc on n'est pas obligé de dire.
Bon, alors, c'est bon, donc pour une fois une bonne nouvelle que le pape rappelle aux prêtres et leur fasse un devoir de dire la messe tous les jours.
Surtout qu'en général, ils tiennent un compte extrêmement pointu de ce que dit le pape.
Oui,
donc on peut être tranquille, là, effectivement, ça va bouleverser leurs habitudes.
Oui. Non, ça bouleverse leurs esprits passagèrement. Je ne crois pas qu'on verra d'ici peu un changement dans les églises, dans les paroisses.
S'il y a autant de prêtres qui tiennent compte de cette... je ne peux pas dire de cette bulle. Mais quoi qu'on pourrait presque dire de cette bulle. S'il y en a autant qui tiennent compte de ça,
là,
oui, c'est ça. Que de prêtres qui tiennent compte de l'avis du pape en ce qui concerne l'habit sacerdotal, eh ben, on est sauvés.
Oui. Hélas, c'est ce qui se passe généralement. Oui, alors si vous voulez que nous passions en Belgique, il y a quelque chose d'assez cocasse. Oui. Il y a un évêque à Bruges.
Quand vous avez dit un évêque à Bruges, j'ai dit ça y est, on va recommencer, on va encore avoir des lettres parce qu'on a insulté les évêques.
Oui. Non, on va pas les insulter, vous allez voir. Celui-là, je n'ai rien contre lui, pour l'instant tout au moins. Bon, il demande à tous les prêtres de son diocèse de faire leur serment en partant de sa lettre pastorale sur le célibat des prêtres. Alors, dans une paroisse de Tielt, paroisse Saint-Paul, l'abbé, le curé, donc, l'abbé Béthune, il s'appelle, monte en chaire, et puis dit, l'évêque nous demande ça, mais moi je ne suis pas d'accord, car, alors c'est là que c'est drôle, l'Église prive arbitrairement les prêtres, vous allez penser de femmes, non, de belles-mères, alors que le Christ a guéri la belle-mère de Saint-Pierre. Donc maintenant, il leur faut des belles-mères.
Ils ont 45 ans de retard. Il y a à peu près 45 ans qu'on ne fait plus de plaisanterie sur les belles-mères. Enfin, sauf deux ou trois arriérés du show business.
C'est pas une plaisanterie, il en veut une.
Ah oui, d'accord.
Il veut une belle-mère. La preuve, c'est qu'à l'issue de son sermon, il a dit, alors j'en profite pour vous annoncer mon mariage avec, je ne sais pas le nom de la jeune fille, mais une petite amie qu'il fréquente depuis 17 ans. et l'évêque l'a aussitôt suspendu à Deligny.
Oh, c'est un acte d'un totalitarisme intolérable.
Oui, c'est,
hein, c'est quand c'est même insupportable. Incroyable. Empêcher un curé d'avoir une belle-mère. Il faut vraiment être... c'est du sadisme épiscopal. Ah oui. Voilà. Bon, à part ça, vous pouvez peut-être nous donner une bonne nouvelle, quand même, dans votre
groligolo. Ah ben, j'ai commencé par une bonne nouvelle. Hein.
Oui, c'est vrai.
Deux mauvaises.
C'est vrai. Alors, oui, d'accord. Alors, allez-y, une autre mauvaise.
Non, la mauvaise, si vous voulez, c'est ceci. Dans le sac à dos du scout italien, tout au moins, prendra place bientôt.
Ah, ça, j'ai compris. Non, n'en dites pas plus.
Bon. Et ben c'est leur association, l'association des scouts et guides catholiques italiens, donc celle qui regroupe tous les scouts, qui le leur dit dans la très officielle revue Scout. Alors, on trouve donc cette la thèse de Mgr Coligny, que c'est une utile sauvegarde, un instrument efficace dans les cas d'urgence. Vous voyez, parce qu'il y a des cas d'urgence
dans la matière. Effrayant. La sottise satanique de ces gens est quelque chose d'effrayant.
Et on
c'est
voit
des cas d'urgence.
Oui.
Ou vite, vite, vite.
Oui. Le style qui continue d'une façon assez bizarre. Cependant, dit la revue, la vraie prévention s'effectue à travers un travail éducatif qui induit à une gestion toujours plus responsable de la propre sexualité. Alors, ils admettent quand même qu'il faut la gérer, cette... Alors, il faut confier ça à des énarques, ou je ne sais pas quoi.
Il faut demander un requin.
Pour que ce soit bien géré.
Quelle horreur.
Oui.
Moi, je trouve que vraiment, ce monde n'est pas du tout intéressant. Il est très, très fatigué. Il faudrait peut-être arrêter, quand même.
Faire tourner
de... bah, c'est pas nous qui faisons tourner, mais on pourrait peut-être demander quand même de tout à... Je crois qu'un bon déluge ou un bon coup de combustion spontanée généralisée, ça pourrait pas faire de mal.
Ça serait bien, oui.
Parce que là, on fatigue quand même. Quand, en Italie, les scouts se mettent à se balader avec des... C'est cela, dans leur sac à dos, c'est vraiment... C'est la fin. Quoique le scout italien, enfin. Bon, bah, écoutez, tant mieux, ça apportera peut-être plus de scouts à Riaumont. Qui est à peu près la dernière troupe sérieuse qui existe dans ce pays. Je vais certainement encore me faire des amis, là. Qu'est-ce qu'il y a comme autre troupe qu'il faut citer?
C'est pas la seule, il y en a quand même quelques-unes.
Bon, d'accord, merci. Donnez vite des noms, Marc.
Qui se rattache d'ailleurs moralement à Riaumont, qui est maintenant la mecque du scoutisme catholique.
Le mot est joli.
Si je puis dire.
Oui, le Vatican, plutôt.
Vous en avez aussi, je veux faire des amis.
Bien, ben Marc, je vous remercie. Alors, il y a naturellement beaucoup d'autres informations dans la lettre confidentielle d'information religieuse que vous publiez, qui s'appelle Iota Unum, et qu'on peut se procurer en écrivant, en envoyant une carte de visite à boîte postale 52 78 101 Saint-Germain-en-Laye, CEDEX. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Voilà, messieurs, vous avez entendu les nouvelles de Marc Dem, alors je vous demanderai pas votre commentaire, à moins que vous ayez envie d'en faire un.
Non, ça me paraît très très bien. Enfin, tout ce que vous avez dit, les commentaires que vous avez faits, me paraissent suffisants, pertinents, topiques.
Oh, je ne savais pas que je faisais des commentaires topiques, mais voilà ce que je vais ramener à la maison ce soir. Je vais dire à ma femme, tu sais, maître Georges Wagner a dit que j'étais topique.
Je tiens à vous dire que c'est flatteur, hein, ça n'a pas du tout l'intention de vous injurier.
Je pense. C'est pour ça que je vais le dire à ma femme. Alors donc, les droits de l'homme au crible de l'ordre naturel, ça sera le thème de votre...
Ça sera, oui, le thème...
De votre intervention.
De l'intervention que mon ami Michel de Gégère m'a demandé de traiter cet été, et j'ai commencé déjà d'y réfléchir sans avoir poussé ma réflexion jusqu'au bout. Je dois dire que j'ai eu l'occasion récemment, il y a 10 jours, de prononcer une conférence à l'Institut de formation nationale, dont vous savez que je m'occupe, qui est sur le thème... devoir du citoyen. Et j'ai rappelé, si vous voulez, qu'il y avait dans cette formule qui paraissait peut-être un peu banale, il y avait déjà quelque chose de doublement scandaleux. D'abord parce que je parlais de devoir, ce qui en soi est tout de même un langage très très ancien, très antique.
C'est à la limite du fascisme.
C'est à la limite du fascisme. Et que je parlais des devoirs du citoyen, ce qui est quand même une discrimination, parce que je discrimine ainsi entre le citoyen et l'homme, voyez, et que
quand
le
vous
citoyen
dites l'homme, vous embrassez aussi la femme.
Et quand je dis l'homme, j'embrasse aussi la femme, comme vous dites, c'est-à-dire l'homme sans aucune attache avec une cité ou avec une patrie quelconque. Alors, passer le les droits de l'homme au crible de l'ordre naturel, je dois vous dire que ce crible, une fois mis en œuvre, j'ai peur que les droits de l'homme, il ne reste rien. N'est-ce pas ? Ce qu'il y a d'ennuyeux dans ce sujet et dans l'emploi du mot naturel, c'est qu'on en fait un usage ambigu. Et les droits de l'homme eux-mêmes, la déclaration des droits de l'homme eux-mêmes, d'ailleurs, vous vous rappelez, dans son article 2, je crois, parle de droits naturels et imprescriptibles qu'il énumère, à savoir la liberté, la sûreté, la propriété et la révolte contre l'oppression, n'est-ce pas, présentés comme des droits naturels. Ce qui fait que le thème, le mot même de naturel est ambigu, c'est, je crois, ce qu'il faut commencer par marquer. Mais en fait, ce qui est remarquable dans cette déclaration des droits de l'homme, c'est que justement, elle aboutit à mettre à bas, à nier, et d'ailleurs elle n'en dit pas un mot, les autorités naturelles. Et oui, il est notable que dans la déclaration des droits de l'homme, il ne soit pas question un instant de la famille. Tout à l'heure, on parlait d'une belle-mère. Il fallait à tout prix sauvegarder la présence des belles-mères. Mais enfin, il y a aussi les pères, il y a aussi les mères, il y a les obligations
C'était
naturelles.
Surtout les belles-mères de curé que vous voulez sauvegarder.
C'est surtout les belles-mères de curé, mais enfin, j'imagine que c'est quand même... Ils doivent tout de même introduire cette notion dans un certain ordre naturel, selon eux, si vous voulez. Et je pense que c'est en se rattachant à l'ordre naturel tel que nous l'avons toujours conçu, si vous voulez. Et tel qu'il résulte au fond du décalogue. Je crois que vous me permettez de faire une référence à Jean-Marie Le Pen, qui de temps en temps se permet dans ses discours, ce qui est en général très mal vu et qui permet de l'accuser de tous les péchés du monde, de dire que finalement sa politique repose d'abord sur le décalogue, et le décalogue qui détermine et définit un certain nombre de devoirs. Et ces devoirs, au fond, sont ceux qui ont forgé, qui ont formé ce que nous appelons, nous, l'ordre naturel, parmi lesquels l'obligation d'honorer ses pères et ses mères.
Et en l'occurrence, ses belles-mères.
Et ses belles-mères, effectivement. Vous voyez, voilà. Alors, en résumé, les droits de l'homme au crible de l'ordre naturel, il ne restera pas grand-chose des droits de l'homme, mais on peut dire aussi que l'ordre naturel au crible des droits de l'homme, il n'en reste rien. Parce que finalement, vous ne trouvez dans cette définition des droits de l'homme rien qui soit commun avec ce que nous appelons l'ordre naturel. Toutes les autorités étant niées, et la seule autorité qui reste étant finalement celle qui est définie par le peuple souverain, c'est-à-dire que toutes les autorités dépendent du suffrage, toutes les autorités naturelles auxquelles on avait coutume d'obéir.
Oui, ce que vous dites me fait penser à une notion qu'on retrouve constamment chez les pseudo-philosophes de gauche, et notamment chez les philosophes de presse à gauche, c'est cette idée que, par exemple, la mort est un scandale. Alors, on lit ça sans arrêt, la mort est un scandale. Et c'est vraiment là l'espèce d'ultime révolte, et impuissante, en l'occurrence, contre l'ordre naturel.
Oui, oui, oui.
Parce que l'homme peut se révolter du fait de sa liberté, de son libre arbitre, contre l'ordre naturel, à peu près impunément, en tout cas, il peut le faire dans tous les domaines, dans le domaine de la sexualité, dans le domaine de la vie familiale, dans le domaine de la vie publique, de la vie sociale, mais il y a quelque chose contre quoi il est impuissant à se révolter positivement, c'est la mort.
Oui, c'est ça.
Et alors,
oui,
on voit cette espèce de rage qui est littéralement infernale.
Infernal, oui. D'ailleurs, oui, c'est une négation ou c'est un refus, finalement, de l'avoir. C'est un refus de l'avoir, c'est un refus de l'admettre, finalement.
Et ça, je crois que ça joue un rôle très important dans notre société, puisque, comme vous le dites, cette révolte, au sens presque de la révolte originelle, entraîne, comme elle est impuissante, elle entraîne une espèce d'attitude de compensation qui est, puisqu'on ne peut pas
On peut rien faire contre l'amour. On peut faire quelque chose contre la famille, on peut faire quelque chose contre l'amour, on peut faire quelque chose contre la vie, même par l'avortement. Mais contre la mort, on peut rien faire. On n'a pas trouvé le moyen de faire avorter la mort. Mmh. Et alors, on la nie absolument. Oui, on en nie l'existence.
Et il est aussi désormais de très mauvais ton de considérer qu'une maladie peut être, après tout, la conséquence d'un mauvais comportement, qu'il peut y avoir une liaison entre une maladie et... Ça, c'est une chose que même les évêques excluent, que par exemple, il puisse y avoir dans le sida, n'est-ce pas, quelque chose qui puisse s'apparenter si peu que ce soit un châtiment divin, est une chose qui est absolument exclue comme blasphématoire, non seulement cela va sans dire par ces personnes dont vous parlez, mais même, ce qui est assez étonnant, par... nos évêques, je l'ai entendu dire à plusieurs reprises.
Le dernier plus arriéré des évêques continue n'accepterait même plus d'imaginer que.
Oui, je crois d'ailleurs, puisqu'on parle des évêques un instant, je crois qu'il y a.
Vous pouvez en citer un, Philippe. Il a l'air pas content de ce que je dis, mais est-ce qu'il pourrait me citer un seul évêque qui aurait le courage de dire aujourd'hui?
Je crois qu'il doit y avoir de temps en temps des évêques qui auraient envie de dire des choses conformes justement à l'ordre naturel, mais. Je pense en réalité qu'ils se taisent. Ils se taisent à cause de ce mécanisme actuel des conférences épiscopales qui font que 3 ou 4 ou 5 évêques parlent toujours au nom des autres. Et je crois d'ailleurs que c'est quelque chose qui se voit dans la vie contemporaine, pas simplement du côté des évêques, mais du côté aussi de beaucoup de professions. Je pense par exemple à ma profession d'avocat. Je peux vous dire que c'est une 100aine d'avocats sur 10 000 qui parlent au nom des autres et qui viennent constamment dire les avocats pensent que, les avocats disent que, les autres travaillent et se taisent et on les fait parler.
Voilà. On les appelle la majorité silencieuse.
On les appelle la majorité silencieuse, mais ils pensent souvent le contraire de ce qu'on leur fait dire.
Alors, maître, vous nous avez dit, maître Georges-Paul Wagner, vous nous avez dit tout à l'heure que ce sujet, ce thème que vous allez traiter à l'université d'été dans les sciences catholiques, les droits de l'homme au crible de l'ordre naturel, ce n'est pas un thème que vous avez choisi vous-même, c'est un thème qui vous a en quelque sorte été recommandé.
Non, c'est un thème qui, je ne dis pas qu'il m'a été imposé, il m'a été suggéré très aimablement, et je dois dire qu'il entre dans le cadre de réflexion que j'étais en train de faire, en train de préparer, puisque, comme je vous l'ai dit, à l'Institut de formation nationale, j'ai parlé récemment des devoirs du citoyen, n'est-ce pas ? Et par conséquent, le thème des droits de l'homme me paraît, en effet, je ne dis pas facile à traiter, mais nécessaire à traiter, parce que c'est vrai que toute la subversion moderne, tout le renversement de l'ordre naturel découle, c'est vrai, de cette déclaration des droits de l'homme et de l'application progressive qui en a été faite, lentement mais sûrement, dans tous les éléments, dans toutes les institutions de la société. Et peu à peu, on a vu toutes les autorités naturelles se dissoudre, quelquefois démissionner d'elles-mêmes, d'ailleurs, en application, quelque façon, des principes de 1789.
Michel de Gégère voulait dire quelque chose.
Oui, je voulais dire que ce que dit Georges-Paul Wagner, ce qu'il vient de dire, me paraît assez important, et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu consacrer la moitié de cette université d'été à une réflexion sur les droits de l'homme, et non pas nous en tenir à une simple commémoration historique du bicentenaire de 93, mais le prolonger par une contestation de la Déclaration des droits de l'homme. Parce que je pense que jusque dans nos milieux, un certain nombre de gens pensent que certes la Déclaration des droits de l'homme a des défauts, que certes elle repose sur une vision incomplète, insatisfaisante des choses, mais que après tout, c'est quand même le versant de lumière de la Révolution, que après tout, ça partait de bonnes intentions. Or, ce qui nous semble, c'est que, au contraire, partant de présupposés faux, partant d'une fausse conception des choses qui ignorent justement les autorités naturelles et qui considèrent l'homme comme un individu roi en soi, etc., cette déclaration des droits de l'homme et la philosophie des droits de l'homme qui en découle et qui est la pensée dominante de notre temps, cette déclaration des droits de l'homme, eh bien, conduit à une inversion, pas seulement à une négation des valeurs naturelles, mais à une inversion. On parlait tout à l'heure du maître Wagner indiquait qu'aujourd'hui on ne veut plus considérer le sida, on refuse de considérer le sida comme un châtiment de Dieu. Mais ça va plus loin. Si vous prenez une affaire comme l'affaire Collard, on a assisté à la béatification en direct à la télévision du martyr du sida. Pourquoi ? Parce que c'est un martyr de la liberté sexuelle. C'est-à-dire que on en arrive à la canonisation du pécheur. paix à son âme, Dieu le jugera, et loin de moi l'idée de le juger lui personnellement, mais on en arrive à la canonisation du pécheur en tant que pécheur, parce que on veut faire de son péché, de sa déviance, un modèle pour nos sociétés. De la même façon, il est très frappant que la popularité de Simone Veil ne soit pas une popularité en dépit du fait qu'elle est la mère de la loi sur l'avortement, c'est une popularité fondée sur le fait qu'elle est la mère de la loi sur l'avortement, c'est-à-dire c'est elle qui a inventé pour les femmes la liberté de tuer leur enfant dans leur sein. Et donc, c'est une espèce de, encore une fois, de béatification à l'envers. Et il y a là quelque chose qui me paraît fondé sur la Déclaration des droits de l'homme, car fondé sur l'individualisme à tout craint, fondé sur la substitution de la liberté en soi comme idéal par rapport aux valeurs traditionnelles de nos sociétés. C'est pour ça que nous avons tenu à faire, dans cette université d'été consacrée au bicentenaire de 1793, non seulement une évocation de la terreur, mais aussi un véritable procès, au sens d'un procès intellectuel, de la Déclaration des droits de l'homme, de ses fondements intellectuels, de ses prolongements contemporains.
Oui. Ce qui est assez évident, enfin, ce qui semble assez évident à travers ce que vous dites, Michel, c'est que, contrairement à une tendance qu'on peut avoir dans certains milieux, contrairement à ce qu'on pourrait avoir tendance à croire dans certains milieux, et je parle de notre famille en général, ce système pervers n'est pas le résultat de l'action d'un petit nombre seulement. Il est aussi rendu possible par l'adhésion du grand nombre. C'est ce que vous disiez à propos de Simone Veil m'a beaucoup frappé. C'est vrai qu'on pourrait penser que Simone Veil est une vedette médiatique complètement fabriquée par les médias sous la pression de groupes puissants, ce que semblerait confirmer l'inadéquation absolue des résultats qu'elle obtient dans les sondages et des résultats qu'elle obtient dans les élections. Mais c'est vrai aussi que les sondages sont pas truqués et qu'on voit bien, comme vous le dites, que beaucoup de gens considèrent Simone Veil comme une espèce de vierge républicaine ou de sainte républicaine, et ont pour elle une espèce de respect, une espèce d'adulation qui fait que quand on dit certaines choses, on se heurte, même chez nous, à l'indignation des gens. Vous ne pouvez pas parler d'elle comme ça, après ce qu'elle a vécu. Bon, elle a vécu ce qu'elle a vécu et elle a fait ce qu'elle a fait. Ça n'empêche pas d'avoir une opinion sur elle et de la dire, cette opinion. Mmh. Eh bien, il y a une espèce d'interdit qui pose là-dessus. Et qui
exactement,
est un interdit
exactement,
collectif.
Oui, d'accord. D'ailleurs, on voit bien ce qui se passe actuellement et ce qui s'est passé ces derniers jours avec le fameux amendement Marceau, n'est-ce pas? Il est apparu qu'il suffisait qu'elle dise quelque chose pour que tout le monde s'incline autour d'elle, n'est-ce pas? Ça a été particulièrement significatif. Je voudrais revenir un tout petit peu sur le procès des droits de l'homme et ce que disait tout à l'heure notre ami de Gégère.
Permettez-moi de vous interrompre une seconde, parce que oui. Je m'attendais à cette intervention. Je voudrais en faire litir tout de suite, si j'ose dire. Un auditeur dit, il y a au moins 4 évêques qui sont vraiment catholiques et qui passent leur vie à dire la vérité. Mais peut-être Monsieur de Beckett et Maître Wagner n'ont-ils jamais entendu parler des évêques sacrés par Monseigneur Lefebvre.
Oui.
Alors je donne la parole à cet auditeur. Bon, c'est lui qui a peut-être jamais entendu notre émission aussi, c'est possible. C'est
oui, ce que je voulais dire sur les droits de l'homme, n'est-ce pas, Michel de Gégère disait tout à l'heure, et il a raison, il est certain que beaucoup de nos amis disent, mais enfin tout de même, ces droits ont consacré un certain nombre de libertés dont on avait besoin dans le domaine judiciaire, particulièrement un certain nombre de principes ont été énoncés, comme pas de peine sans loi, on ne peut être jugé qu'en vertu d'une loi qui existe au moment où le crime a été commis. Or, ce qui est tout à fait frappant, c'est vrai d'ailleurs, que ces principes qui sont énoncés là, dans un certain nombre d'articles de la Déclaration des droits de l'homme, sont des articles devant lesquels tout le monde s'incline, et qui sont le fondement de toute justice véritable. Mais ce qui est très significatif, c'est que ce sont justement les articles aujourd'hui les plus méconnus, les plus méprisés de cette déclaration. Car que l'on prenne l'affaire Touvier ou que l'on prenne l'affaire Bousquet, n'est-ce pas, considéré comme coupable avant d'avoir été jugé, dont l'assassinat est pour ainsi dire presque approuvé puisqu'on estimait que ses crimes étaient déjà établis.
Et dont on réclame quand même le procès posthume.
Et donc on réclame quand même le procès posthume. Il y a sur ce point alors des violations spectaculaires de ces principes qui sont, disons, des principes élémentaires et que tout le monde peut approuver. Mais au cœur de cette doctrine et derrière ces quelques articles que nous pouvons défendre et que même nous devons défendre, il y a l'effondrement de l'autorité, puisque la seule autorité qui désormais soit souveraine, c'est le suffrage populaire, et que toutes les autres autorités y sont par conséquent soumises.
Enfin, oui et non, parce que j'allais vous citer un exemple actuel. Le suffrage populaire est une autorité irréfragable tant que les comités, oui, les groupes de pression et les lobbies n'en ont pas décidé autrement.
C'est sûr.
Regardez ce qui s'est passé en Algérie où le suffrage populaire a été en train de porter au pouvoir
oui,
des gens qui ne plaisaient pas aux comitards. Mmh. Et ben ces gens-là ont été envoyés en prison.
J'énonçais la règle théorique, oui, n'est-ce pas, que la loi est faite par le souverain et que le souverain est constitué par le vote, etc., et que la loi est la seule limite qui soit apportée, comme vous le savez, la liberté. Mmh. Tout ça est énoncé par la déclaration des droits de l'homme. Alors ces principes théoriques sont quand même l'effondrement, l'assassinat, je dirais, en place publique de toutes les autorités naturelles. Que peut dire le père de famille à son fils qui vient lui dire « Je ne te connais pas, je ne reconnais pas ton autorité, c'est pas dans la déclaration des droits de l'homme, c'est le fils qui a raison. »
En ce sens, d'ailleurs, la décapitation du roi est un geste d'une portée symbolique extraordinaire.
Exactement,
là, c'est
exactement,
définitif.
Oui, exactement.
Michel de Gégère, je voulais vous poser une question qui m'a été inspirée par ce que nous disait au début de son intervention Maître Georges-Paul Wegener, que c'est vous qui avez en quelque sorte choisi son thème en fonction de ce que vous savez des travaux qu'il fait. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir en fonction de quels critères vous avez choisi les différents thèmes. Est-ce que c'est des thèmes qu'on vous a proposés ou généralement des thèmes que vous avez, non pas imposés, mais recommandés?
Disons que dans l'ensemble, les thèmes sont le fruit d'une rencontre entre les centres d'intérêt des conférenciers que nous avons invités et puis, l'idée générale que nous voulions défendre au cours de cette université d'été. C'est-à-dire que, plus exactement, nous avons choisi d'inviter tel ou tel conférencier en fonction de leur centre d'intérêt et en fonction du programme que nous souhaitions établir. Et là, s'agissant des droits de l'homme, effectivement, à partir du moment où nous voulions mettre à plat un petit peu la déclaration des droits de l'homme, il nous a semblé qu'il était bon qu'il y ait un petit peu des philosophes qui en parlent du point de vue strictement philosophique. Et c'est pourquoi nous avons invité Thomas Molnar et Claude Paulin. Thomas Molnar pour parler des origines philosophiques de la déclaration des droits de l'homme et Claude Paulin pour montrer comment, aux sources de la pensée contre-révolutionnaire, à travers essentiellement Burke d'abord, il y a la contestation de la philosophie des droits de l'homme. Un historien du droit, la personne de Guy Auger, qui est un élève de Michel... quel est cet historien du droit qui a écrit Le droit contre les droits de l'homme? Son nom m'échappe, qui a écrit un livre admirable.
On va nous le téléphoner instantanément.
Le droit et les droits de l'homme. Et qui a contesté, lui, la philosophie des droits de l'homme du point de vue de l'historien du droit en montrant comment la déclaration des droits de l'homme était une absurdité du point de vue du droit. Parce que le droit est d'abord une mesure de partage de ce qui existe et non pas de création d'un droit absolu. Là encore, c'est une conception constructiviste. Et puis, Georges-Paul Wegener, qui était quelqu'un qui est à la fois au carrefour un petit peu de la réflexion philosophique, de la pratique du droit et puis de la pratique de la politique. Donc il nous paraissait opportun d'avoir cette complémentarité avec enfin Daniel Raffard de Brienne qui lui est spécialiste de l'histoire de l'Église et donc nous parlera de l'Église et des droits de l'homme avant et après Vatican II. Donc c'est un petit peu le programme qui a qui nous a presque imposé les conférenciers. Et donc, le programme est le fruit d'une rencontre entre les conférenciers et nos préoccupations.
Alors, parmi ces conférenciers, Reynald Secher, qui lui s'inscrit dans l'autre facette, l'autre versant de l'université d'été, des leçons de cette université d'été, c'est la face cachée du bicentenaire, qui est... Moi, c'est je ne cacherai pas que c'est l'aspect que je préfère, parce que j'aime beaucoup les pétards qui explosent au nez de ceux qui allument la mèche. Et cette affaire de la face cachée du bicentenaire me paraît exemplaire, parce que en 89, l'intelligentsia qui est au pouvoir, qui ne comprend pas que les socialistes ou les communistes, s'est amusé à allumer un énorme pétard de feu d'artifice qui devait célébrer... l'extraordinaire réussite du bicentenaire, donc bicentenaire de 1789. Et apparemment, personne n'a pensé que si on entrait dans cette voie, inévitablement, sauf fin du monde, on allait à un moment être obligé d'évoquer un autre aspect du bicentenaire qui, lui, était beaucoup moins feu d'artifice et pétard du 14 juillet, qui est la partie sombre, la face cachée de ce bicentenaire. Et naturellement, ça a déclenché des réactions. Cette célébration joyeuse, prime sautière, je dirais, de la Révolution, dans toute son acception un peu amusante, gaie, on faisait danser des enfants le 14 juillet, ou enfin à la fin de l'année, on a fait danser des enfants déguisés en sans-culottes.
On les a fait défiler
en promenant des têtes enveloppées dans du chiffon, enfin fabriquées avec du chiffon, des choses comme ça. On a fait construire des petites guillotines pour amuser la famille, tout ça était très très drôle. Et puis, il y a quelqu'un qui s'appelle Reynald Secher qui est arrivé, qui a dit, attendez, je voudrais quand même vous rappeler quelque chose, c'est qu'il s'est passé un événement dont on ne peut pas ne pas parler, qui est le génocide vendéen, le génocide des Vendéens. Et immédiatement, ça a provoqué une première réaction qui a été, halte là, pas touche, génocide, c'est un mot qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Et même la conception, le concept même de génocide n'est pas autorisé en ce qui concerne la qualification de ce qui s'est passé en Vendée. Or, ça n'est pas vous qui avez inventé ça, c'était les contemporains de cet événement ont considéré eux-mêmes qu'ils étaient en train de se livrer à un génocide, puisque je crois qu'à l'époque, il est paru un livre désormais célèbre qui s'appelle, vous allez me rappeler le nom précis...
Du système de dépopulation par Gracchus Babeuf.
Voilà, du système de dépopulation... Ce qui est une façon élégante de dire, ça s'appelle l'éradication des populations, ce que la Bible dans les Juges, dans les Nombres et dans le Deutéronome appelle l'interdit, autrement dit le génocide, la destruction des pères, des femmes, des enfants, des filles, des vieillards et jusque y compris des animaux. Et c'est vous qui avez fait en quelque sorte exploser cette réalité que les Français ignoraient finalement.
Oui, mais en termes de chronologie, je vais faire une légère correction. En fait, je crois qu'il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de rapport entre le travail qu'on a fait avec l'équipe Chonu et surtout Jean Meyer et le bicentenaire. C'est après coup que le rapport a été établi. En termes de chronologie, le tout a commencé en 1979, très tôt. Ça a commencé à Rennes, lorsque j'ai rencontré Jean Meyer et que, humble étudiant, je lui ai proposé un sujet de thèse de recherche. Jean Meyer, comme moi-même, nous n'en avions aucune idée. C'est au moment où nous allions nous séparer, en dépit, que Jean Meyer a eu cette idée superbe de me solliciter pour la Vendée. La Vendée, je suis vendéen et breton. Était un sujet qui m'était familier, même si, et maintenant je m'en aperçois, je ne le connaissais pas. Et je dois dire, nous ne le connaissions pas. Des problèmes énormes se posaient, méthodologie, documentation. Et c'est après coup seulement que nous avons compris, par rapport à ce que nous avions découvert, le problème que ça allait soulever. Pas seulement nous d'ailleurs, il faut le dire, mais l'État français de l'époque... Nous étions sous une période socialiste qui a parfaitement compris, rapidement compris, le danger que représentait cette redécouverte
de la Vendée, parce que c'est là où est le stupéfiant. Et à travers l'article que nous avons fait pour le spectacle du monde, on l'a bien expliqué, je crois. C'est qu'à l'époque, tout le monde avait conscience de l'incroyable. Tout le monde avait conscience de ce qui s'était passé, de la monstruosité de ce qui s'était passé. Et c'est la mémoire, après, qui a été travaillée, revisée, etc. Et ça a été un travail de révisionniste, justement, au sens français du terme.
Ce que je voulais dire, c'est que, non pas que vos travaux ont été inspirés par le bicentenaire, mais que, on ne peut pas dire qu'il est très courant que des travaux d'historiens, surtout sur des sujets aussi pointus,
absolument, oui,
fassent l'objet d'une médiatisation telle. Alors, ce qui s'est passé, c'est que vos travaux existaient en 89-90, et que c'est le fait qu'on ait fait tout ce raffut autour du bicentenaire de 89 qui a amené, qui en a amené certains, peut-être pas pour des raisons parfaitement innocentes d'ailleurs, à dire, mais dites donc, et si on parlait un peu du génocide vendéen, hein? Donc c'est ça qui a donné à vos travaux le retentissement qu'il n'aurait peut-être pas eu autrement.
Oui, je crois qu'il y a eu beaucoup de bêtises de commises dans cette affaire. Et je crois que la première bêtise qui a été commise, c'est de nous empêcher de travailler. Ça, je dois dire que Chenu, Meillard, etc., nous étions un peu scandalisés par les moyens qui étaient retenus contre nous. Vous savez, moi, j'étais un étudiant tout à fait banal à l'époque. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est les pressions que nous avons eues pour ne pas soutenir. Je rappelle tout de même, il y a eu cambriolage d'appartements, menaces, tentatives d'achat par le ministère de l'Éducation nationale. Je ne dirai pas la somme parce que cela ferait bondir. Donc, il y a eu...
Vous voulez dire qu'on vous a proposé de l'argent pour arrêter vos travaux?
Ah non, pour ne pas soutenir.
Ah, pour ne pas soutenir.
Ah oui, oui, il faut bien comprendre en termes de chronologie. Mais à l'époque, on ne comprenait pas tout cela, Chenu, Meillard, etc. Moi-même, on ne comprenait pas ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'une semaine avant la soutenance, il y a eu cambriolage de mon appartement et confiscation, vol de ma documentation et de mes thèses, d'ailleurs, qui allaient être soutenues une semaine plus tard. Et après, on a été convoqué par un chargé de mission anonyme, malheureusement, du ministère de l'Éducation nationale, qui nous a proposé un marché que nous avons bien entendu refusé, je tiens à le dire, et on nous a, menacé d'un certain nombre de sanctions qui se sont révélées exactes par la suite. Trois essentiellement, la démission forcée, ce qui a été réalisé quelques mois plus tard. Deuxièmement, des menaces vis-à-vis de ma famille qui se sont effectivement passées, notamment vis-à-vis de ma grand-mère, puisque je n'avais que ma grand-mère, et qui a été salie dans cette histoire. Et troisièmement, une diffamation qui a été une diffamation déplorable, notamment d'un certain nombre d'universitaires et du porte-parole de l'Élysée d'époque, Max Gallo.
C'est stupéfiant. C'est vrai qu'on savait tout ça, mais de vous entendre le rappeler...
J'avoue que je ne le savais pas.
On est abasourdi littéralement par les méthodes de ces crapules. Ce sont vraiment des canailles salivières dans toute leur...
Non, je ne juge pas là-dessus. Bon, c'est un fait, je ne juge pas, je crois que c'est l'imbécilité. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est que notre discours n'était pas du tout un discours idéologique ou politique. C'est un discours scientifique. Et je crois que la grosse erreur, c'est d'avoir nié la documentation qui existait et que tout le monde pouvait voir. Tout le monde pouvait aller aux archives, la consulter. Et je crois que, là je parle à l'avocat, la plus grande maladresse, c'est d'avoir nié cette documentation qui a été publiée à l'époque dans le bulletin officiel de la Convention. Je cite par exemple, vous allez voir pourquoi je vous prends à partie, la fameuse loi du 1er octobre, qui est la loi d'extermination de la Vendée. Elle a été publiée. Bon, c'est une loi qui est consultable. Et justement, c'est une question que je veux vous poser. Il y a une loi qui est sortie sanctionne ceux qui nient les réalités historiques.
Exactement, oui.
Est-ce que l'on ne peut pas, en la matière, entraîner devant les tribunaux ceux qui nient l'existence de ce texte et qui nient donc l'extermination?
Non, parce que la loi à laquelle vous faites allusion, qui est une loi du 13 juillet 1990, la veille de la fête nationale, c'est la loi... la loi Rocard-Guesso, n'est-ce pas? Est une loi qui interdit effectivement la libre recherche historique, ou en tous les cas la libre publication des recherches historiques, mais simplement sur un sujet déterminé.
Ah, d'accord.
C'est-à-dire en ce qui concerne la guerre de 40, grosso modo. Et si vous voulez bien,
la contestation,
si on veut bien limiter ce qui s'est passé entre juillet 40 et disons mai 1945. Alors le reste, si vous voulez, pour le reste, la mémoire est libre, n'est-ce pas? J'ai d'ailleurs publié il y a quelques jours un article sur ce sujet dans Présent, où je me suis amusé à traiter le sujet du bac, un des sujets donnés au bac de philosophie, le devoir de mémoire, parce que on parlait du devoir de mémoire. Et je disais que le devoir de mémoire, si vous voulez, certainement est limité dans l'esprit de celui qui a donné le sujet, est limité à cette période. Pour le reste, vous avez parfaitement le droit de ne vous souvenir de rien. En tous les cas, la recherche et la publication des recherches est parfaitement libre. Alors, la dénaturation des faits ne peut pas être poursuivie en justice, sauf quelquefois en vertu de l'article 1382 du Code civil, mais lorsque il s'agit de faits historiques qui ont encore des survivants, quelquefois l'héritier, le descendant de quelqu'un qui est visé dans un ouvrage d'histoire, qui se trouve diffamé, si vous voulez, a la possibilité d'agir si il y a une diffamation à l'égard de la mémoire d'un mort. C'est le seul moyen de contraindre au rétablissement des faits, mais il n'y a rien d'autre dans les textes qui impose en quelque façon la vérité historique.
Alors pour conclure ce débat, quand je parle de l'imbécilité, elle a été totale, cette imbécilité, elle a été jusqu'au bout. Bon, ces mêmes gens qui proclamaient les droits de l'homme, qui m'ont acculé au chômage pendant 2 ans, il faut le dire. Pendant 2 ans, j'étais chômeur, impossible de trouver du travail systématiquement. Lorsque j'avais un emploi, on appelait l'employeur, etc. Bien, en me faisant passer pour un extrémiste, etc. C'est vrai que ce genre de méthodes sont exécrables. Ceci dit, je rejoins saint Thomas d'Aquin, quand il y a une vérité, vous pouvez faire tout ce que vous voulez contre cette vérité, un jour ou l'autre, elle s'établit. Et je rends hommage là à ce qu'elle fait Buisson, dans le cadre de Valmont, de Valeurs Actuelles, qui a réuni une quarantaine de journalistes, d'historiens, de politologues, de l'extrême gauche à l'extrême droite, s'il y en a une, qui ont réfléchi, qui ont fait des articles de synthèse sur la mémoire de la Vendée. Et ce qui est intéressant, c'est entre ces réactions violentes de 1986, absolues. Il faut voir cette violence, qui est une violence verbale, mais aussi physique. Et maintenant, le compromis vers lequel nous glissons aujourd'hui, et je crois qu'il y a quasiment unanimité pour reconnaître qu'il y a eu génocide en Vendée. Et la dernière mission qu'il y a eu à Eslibris est remarquable. Et je crois que ce livre, effectivement, est un tournant dans la conscience collective française. Je ne sais pas quelles vont être les conséquences à long terme, mais je crois que c'est un tournant. Bon, quand on voit que des gens comme Masgallo, qui sont des gens excessifs, qui ont été extrêmement violents, et je ne fais que donner comme référence la lettre ouverte qu'il avait faite à Maximilien de Robespierre, cette violence, eh bien, s'est traduite 3-4 ans plus tard vers une reconnaissance. Et je crois que ça, c'est très important. Et je crois que le bicentenaire de 89 a été effectivement un énorme échec en tant que commémoration de l'événement retenu, mais a été un formidable succès pour établir une certaine vérité.
Je pense, oui, ça c'est vrai, je pense. Oui, ça s'est retourné, à mon sens, complètement contre le but poursuivi.
Cela dit, il s'est passé une chose, je suis en train de travailler sur le sujet, parce que c'est le sujet de conférence que m'a proposé, comme on dit maintenant élégamment, Michel de Gégère. Il apparaît assez évidemment que, en termes de médiatisation, on peut dire que pour 100 articles publiés pour le bicentenaire de 89, il y a un article publié pour le bicentenaire de 93. Et le ton est tout à fait différent.
Oui. Si je peux me permettre, vous savez, je ne crois pas qu'il faille se limiter à la commémoration franco-française de 89. Et je suis bien placé pour le dire. Moi, j'étais travaillé quasiment pour toutes les télévisions du monde. Toutes les télévisions du monde ont débarqué à la maison, à Rennes, aussi bien la télévision chinoise, la télévision américaine, la télévision japonaise, etc. Et nous avons parlé de la Vendée, et au-delà de la Vendée, parce que je crois qu'il y a une autre destruction de la famille dont personne ne parle, et qui me semble première, c'est la destruction de la famille de la province, provinciale. La Révolution française, c'est l'égalité des hommes, mais l'égalité aussi du statut des provinces, qui d'ailleurs, du jour au lendemain, en quelques minutes, ont disparu. Mais à l'intérieur même de ces provinces, vous avez une grande famille avec son identité. Et c'est l'identité que l'on a tuée. Vous savez, le mythe de l'universalité. le mythe de l'égalité absolue a entraîné un véritable provincialicide, je ne sais pas comment on peut dire si, on a tué les identités régionales violemment.
Ah ben, on les a tués, c'est la Grégoire notamment qui a été...
Oui, mais ça c'est, si vous voulez, l'action ponctuelle, c'est l'action en 1789, 1790, 1791, 12 et 13, parce qu'effectivement je crois que le 21 janvier 93 est vraiment une rupture dans l'histoire de l'humanité, et pas seulement de France, mais de l'humanité. Mais cette œuvre de destruction systématique qui continue pour la famille, et vous avez raison de le dire, parce que je vis ça en tant que père de famille tous les jours, je crois qu'ici, il y a un certain nombre de pères de famille ou de mères de famille qui le vivent. Mais on a tué l'identité des provinces de manière violente, excessivement violente, jusque dans les années 1950-1960. On est en train de redécouvrir la notion de région, même si celles-ci sont bâtardes. Mais imaginez par exemple les cours d'école en Bretagne vides de tout bruit, de tout éclat de rire, de tout chahut, parce qu'il était interdit aux enfants bretons de parler leur langue maternelle. Eh bien ça, ça a duré jusque dans les années 1960-1970. Et je crois qu'on ne parle pas de cela, on en parle très peu.
C'est vrai, c'est certain. Et certains de remarquer que l'abolition des privilèges a été l'abolition, n'est-ce pas? Il ne faut pas oublier, il ne faut jamais oublier l'origine, l'étymologie du mot privilège. C'est une loi privée, c'est une loi particulière. L'abolition, par conséquent, de tous les statuts spéciaux, de toutes les décentralisations réelles qui existaient alors et qui, d'un seul mouvement, d'un seul geste, ont été détruits. Et la destruction s'est ensuite continuée, c'est vrai, vous avez raison, tout au long du XIXe siècle et du XXe siècle. Ce qui est amusant, par exemple, aujourd'hui, c'est le travail... amusant, je dis entre guillemets, n'est-ce pas, c'est tragique par un certain côté, c'est le travail lent mais sûr qui a été fait pour détruire l'institution du mariage, n'est-ce pas, à travers un certain nombre de lois, de textes, y compris fiscaux, puisque pendant une certaine époque, vous le savez, les concubins étaient mieux situés sur le plan fiscal que les gens mariés.
Aujourd'hui,
n'est-ce pas, aujourd'hui, ce qui est amusant d'ailleurs et paradoxal, c'est qu'on ne réclame plus le droit au mariage que pour trois catégories de personnes, les prêtres catholiques, n'est-ce pas, ceux qu'ils veulent, surtout ceux qui veulent avoir une belle-mère, les homosexuels, n'est-ce pas, et puis les étrangers. Alors le droit au mariage des étrangers est devenu un droit naturel, imprescriptible, qu'il est honteux de leur refuser, fussent-ils arrivés depuis la veille et dans des conditions irrégulières. S'ils veulent se marier le lendemain, il faut que tous les maires de France se mobilisent immédiatement.
D'ailleurs, vous me donnez une idée, je parlais au début de cette émission, vous n'étiez pas là, de l'amendement Marceau, en disant qu'il était parfaitement idiot, parce qu'on ne peut pas reconnaître un étranger. Mais si, au fond, il y aura peut-être un moyen bientôt de reconnaître un étranger, c'est quelqu'un qui sera marié.
Il aura une bague au doigt, oui, c'est ça, c'est vrai.
Donald Secher.
Je vais faire une petite nuance par rapport à ce que vous nous avez dit tout de suite. Lorsque vous parliez de la décentralisation de l'ancien régime, ce n'est pas une décentralisation. C'est une addition de contrats d'union d'État à État.
C'est sûr, oui.
Et je prends l'exemple de la Bretagne. La Bretagne est un État indépendant à part entière jusqu'au traité de 1532. Mmh. C'est une négociation d'État à État.
Exactement.
Avec signature bilatérale d'un contrat. Ouais. Vous avez eu rupture unilatérale de ce contrat dans la nuit du 4 août 1989. C'est autre chose dans le raisonnement. Ouais.
Oui, quand j'ai employé le terme décentralisation, je l'ai employé, si vous voulez, au sens où Maurras l'entendait, vous savez... C'est-à-dire que effectivement, pour lui, c'était finalement le retour à cette situation que vous signalez, et qui est très exacte, et qui faisait que chaque région, chaque province avait un statut particulier, avait des organes d'ailleurs spéciaux pour voter l'impôt, etc., et avait un droit qui était variable de province à province, comme vous le savez. Il y avait, sous l'ancien régime, 300 ou 400 manières de tester, de faire des contrats de mariage, etc., suivant l'endroit où on se trouvait. C'était d'ailleurs assez mal commode, entre nous soit dit, mais après tout, c'est la situation qui existe encore actuellement aux États-Unis, où il y a un droit qui est différent dans chaque État, vous voyez. Or, nous n'avons plus l'idée.
À propos de ce que disait Renald Secher tout à l'heure, un auditeur nous fait remarquer, à mon avis fort justement, que
Quand vous parlez de la Bretagne et du breton, il ne faut pas exterminer, dit-il, pour autant le galop.
Ah, mais nous sommes tout à fait d'accord. Et cet auditeur a parfaitement raison. Le galop est une langue à part entière et non pas un patois ou un dialecte, contrairement à ce que l'on dit. C'est une langue romane à part entière. Et cet auditeur a parfaitement raison.
Ce qui est curieux dans cette conversation qui s'est installée, c'est que on a l'impression que les choses sont inversées. C'est-à-dire que on a l'impression que la tradition centralisatrice, qu'on a toujours présentée comme une tradition républicaine, mais plutôt de droite, oui. Alors que la tradition régionaliste avait plutôt une image de gauche, les babacools qui réclamaient le droit de parler ou l'indépendance du Pays Basque, ou le droit de parler Nissar, enfin des choses comme ça. On a l'impression qu'en ce moment, c'est en train de basculer et que les valeurs naturelles reviennent à leur échelon naturel et que ce sont les nationalistes qui défendent des principes.
Oui, c'est-à-dire que effectivement, il y a eu là. Il est certain que au début de ce siècle, la volonté décentralisatrice est défendue par des hommes comme Barrès et par Maurras, surtout Maurras, mais qui ne la croit possible qu'à travers la restauration de la monarchie, le roi des républiques françaises, disait-il. Il est certain qu'à partir de 1945, les tendances régionalistes, décentralisatrices, ont été revendiquées. Plutôt par la gauche et quelquefois même par des mouvements d'extrême gauche, quelquefois plus ou moins terroristes, comme en Corse, comme en Bretagne, etc. Il y a eu, semble-t-il, une sorte de basculement. Aujourd'hui, on observe en effet, dans le langage régionaliste, une volonté de revenir aux sources. On parle de nouveau des racines, c'est-à-dire qu'on prend le langage de Barrès, car c'est Barrès qui a créé les racines et le déracinement. Mais en même temps, le danger, c'est que cette volonté de régionalisme souvent s'accompagne d'une volonté de détruire la nation, l'Europe des régions, n'est-ce pas? L'Europe des régions, c'est finalement l'abolition de la nation, considérée comme un stade intermédiaire inutile. Alors il y a là un langage qui, je ne sais pas...
Au moins ambigu.
Au moins ambigu, et en tous les cas, auquel je serais assez opposé, parce que je pense quand même qu'il faut maintenir la nation et que je pense absolument qu'il faut maintenir et défendre la nation.
Renal Sécher, vous voulez dire?
Oui, ce qui est intéressant, et je vous rejoins pour une bonne partie par rapport à ce que vous venez de nous dire, c'est vrai que la décentralisation est une valeur de droite, et il suffit de regarder la géographie de l'espace de la Chambre en 89 pour s'apercevoir que les Girondins sont à droite et que les Montagnards sont à gauche. Le basculement est beaucoup plus compliqué, sophistiqué. Je crois que le basculement, c'est 45, effectivement. Mais je crois que s'il y a une partie de la gauche qui est allée vers la décentralisation, c'est par désespoir de cause. Et c'est vrai, je suis toujours très surpris, moi qui suis un analyste à long terme, de voir que c'est la droite qui nie, qui ne veut pas la décentralisation, et que c'est la gauche qui a fabriqué la centralisation, qui est pour une certaine décentralisation. Mais... Et je vais avoir un avis très différent de vous. Je crois qu'il faut absolument décentraliser. Pourquoi? Et ça, c'est l'homme de l'Ouest qui parle, mais je pourrais aussi parler pour les Basques, pour les Corses, pour les Alsaciens, etc. Parce que nous sommes piégés par les mots. Capitale, ça veut dire la tête. Province, ça veut dire pays vaincu. Eh bien, je peux vous dire que moi qui suis un responsable culturel de l'Ouest, l'Ouest est en train de crever économiquement. Est en train de crever économiquement parce que je vais vous donner un chiffre. Nous sommes, la Bretagne par exemple, est la 7e région à payer l'impôt. En termes de distribution, nous sommes la 21e région. Ce n'est pas normal. Au niveau culturel, il faut savoir que le budget culturel national est consommé à 70% par Paris. Le non-Paris, lui, consomme 30%. Ce n'est pas normal, etc., etc. Paris est en train d'asphyxier la France et le non-Paris est en train de crever. Oui, et je crois que...
Je ne suis pas persuadé que nous soyons si opposés que vous le croyez, si vous voulez. C'est-à-dire que moi aussi je suis décentralisateur, mais je voudrais une vraie décentralisation.
Ah, d'accord.
Et je crois que les solutions adoptées et développées à partir de faire, si vous voulez, qui ont consisté à créer d'abord des régions qui sont de fausses régions, qui ne rassemblent pas véritablement les anciennes provinces.
Nous sommes d'accord.
Pour la Bretagne, c'est le cas, n'est-ce pas? Et puis c'est le cas pour beaucoup d'autres régions. Ce sont de fausses régions. D'autre part, on a créé en réalité un échelon supplémentaire d'administration qui est le Conseil régional, qui fait visiblement sur beaucoup de points double emploi avec le Conseil général, n'est-ce pas, sans que ça apporte souvent autre chose d'ailleurs que de déléguer à ces conseils des responsabilités toujours partielles, n'est-ce pas? Je le prendrai par exemple dans le cadre de l'enseignement, si vous voulez. Une vraie décentralisation de l'enseignement consisterait à pratiquer en France ce qui se pratique en Allemagne, où il n'y a pas de ministre de l'éducation. En Allemagne, il y en a autant que de Länder, n'est-ce pas? Alors qu'en France, nous avons un ministre de l'éducation qui définit encore strictement de Paris, comme au temps de Napoléon, exactement de la même manière, les programmes, les études, les diplômes et les examens. Et la décentralisation a simplement consisté à donner aux conseils régionaux et aux conseils généraux l'entretien des lycées ou l'entretien des collèges, dans des conditions telles d'ailleurs qu'ils distribuent l'argent que l'État leur a refilé, si vous voulez.
Oui, c'est plus compliqué,
ce qui fait que ce n'est pas une vraie décentralisation. Alors la vraie décentralisation, c'est autre chose, et c'est vrai, vous avez raison de le dire, à l'heure actuelle, les provinces ne vivent pas mieux sous cette prétendue décentralisation qu'elles ne vivaient auparavant, mais c'est même pire, parce qu'il y a l'aggravation résultant de la situation économique.
Et pour aller jusqu'au bout de cette analyse, bon, je crois qu'effectivement, il faut redécouper les régions en France selon un découpage naturel, s'il en existe un, et puis surtout, leur donner les moyens d'assumer leur identité. Ça veut dire quoi, le mot identité? Parce que c'est un mot qu'on utilise beaucoup. Je crois que c'est ma définition. Je ne sais pas si vous allez me rejoindre. Je ne sais pas si on est loin du sujet.
Non,
mais,
non, allez votre chemin. Tant que c'est intéressant, on n'est jamais loin du sujet.
Qu'est-ce que c'est l'identité? Je crois d'ailleurs que l'identité de la province a la même définition que l'identité de la famille. C'est avoir un vécu commun. On a vécu 100 ans, 200, 300, 1000 ans ensemble. On est bien. On est à l'aise dans le présent. Et puis surtout, on veut vivre ensemble le futur. On veut l'assumer ensemble. Je crois que donc il y a cette approche tripartite. Bon, on est bien ensemble et on veut vivre ensemble le futur. Moi, je suis désolé de le dire, mais lorsque un homme comme moi qui vient de l'Ouest, j'arrive à Paris, je ne sais pas que je sois anti-parisien, mais lorsque je vais à Paris, je suis perdu. Parce que lorsque je me promène dans certaines rues, ce ne sont pas mes normes. Je suis désolé de dire, ce ne sont pas mes normes. Lorsque je vois...
Ce n'est pas les nôtres non plus. Moi, ça fait 40 ans que je suis parisien et ce n'est pas mes normes non plus.
J'ai vécu un mois et demi pour l'exposition sur la chouannerie et la Vendée à Paris, mais c'était très difficile psychologiquement. Mmh. Et lorsque je suis revenu en Bretagne, j'étais content. Heureux. J'ai retrouvé les miens, j'ai retrouvé ma famille au sens large. Et vous ne pouvez pas vous imaginer ma joie. Et je crois que là, il y a effectivement...
Je peux très bien me l'imaginer, encore que je sois moi essentiellement parisien. Par conséquent, pour le parisien, c'est la même chose. Hein, il retrouve sa joie à Paris. Mais oui. Je comprends très bien, si vous voulez, cette volonté qui me paraît, si vous voulez, devoir être effectivement défendue. Mais... Je crois que la mauvaise méthode de décentralisation et le mauvais raisonnement que l'on fait depuis très longtemps sur ce sujet, c'est de penser que la décentralisation doit venir du centre, doit venir de... Or, il est clair, si vous voulez, Maurras a dit sur ce point une chose très juste quant aux libertés, mais les décentralisations sont des libertés, finalement. Il a dit que les libertés ne se décrètent pas, elles se prennent. Autrement dit, les vrais pouvoirs restitués aux provinces, restitués aux régions, restitués aux familles d'ailleurs, c'est aux familles, c'est aux provinces, c'est aux régions de les reprendre.
Absolument.
Voilà, je crois que si c'est l'État qui le décrète et si c'est l'État qui vous donne l'argent pour ensuite faire le grand garçon, c'est exactement la situation du fils de famille qui ne travaille pas et qui demande à son père de lui donner de quoi avoir l'air indépendant quand il se promène dans le monde. Eh bien, la véritable indépendance, on la conquiert. Oui.
Alors, je crois que là aussi, on est piégé par des mots révolutionnaires, et notamment le mot « égalité ». Ça, on est vraiment piégé par ce mot. Oui. La nation française est une nation égalitariste. Eh bien, je crois que l'enrichissement vient justement de la différence. Et je crois que la régionalisation, une régionalisation repensée, peut recultiver les ferments d'identité, peut recultiver les ferments de différence. Et je crois que c'est le frottement de la différence qui fera l'enrichissement collectif. Et moi, je suis un de ceux qui sont persuadés que l'appauvrissement que nous avons à l'heure actuelle en France est dû à cette notion égalitariste.
Mais alors, vous voyez, je sais pas si on est toujours dans le sujet.
Je trouve qu'on est tout à fait dans le sujet, plus que jamais, puisque en fait, je voudrais quand même faire une remarque,
vous parliez de la langue et de la langue bretonne. Alors, vous voyez, je disais que j'étais parisien, mais j'ai quand même des ancêtres bretons. Et dans mon enfance, j'ai beaucoup vécu en Bretagne avec mon père qui, d'ailleurs, en dépit de ce que donnait à penser son nom, parlait le breton parce que sa mère était bretonne. Et à cette époque-là, je peux vous dire que dans la région de Bretagne que je connais bien, qui se situe aux alentours du lac de Garlédan, Gouarec, Carhaix...
Je connais bien, oui.
Vous connaissez cette région. Je peux vous dire qu'il y a 50 ans, quand on était perdu dans un coin de cette région et qu'on demandait son chemin, si on ne savait pas le breton, on n'avait aucune chance d'être dirigé. Alors qu'aujourd'hui, je dois observer, je retourne encore dans cette région... qu'en dehors des fêtes, où l'on emploie beaucoup plus le langage breton, si vous voulez, j'ai l'impression que dans la vie quotidienne, nul ne parle plus le breton.
Alors, ce n'est pas tout à fait exact. Vous avez encore des communes, des pays entiers qui parlent le breton. Vous avez même des structures et des structures d'État. Je pense par exemple au Conseil général du Finistère, moins du Morbihan et plus des Côtes d'Armor, qui travaillent sur cet aspect. Vous avez des structures aussi comme l'école d'Iwan, qui a permis à la jeunesse bretonne de recultiver et de réapprendre ou de continuer de parler breton. Mais je vais évoluer dans cet échange. Il y a une question que j'aimerais que l'on pose au gouvernement français à l'heure actuelle. Moi, je suis un de ceux qui suis résolument contre le ministère de la culture. Je crois qu'il faudrait parler de ministère des cultures, parce qu'il n'existe pas une culture française. On peut me dire tout ce que l'on veut, il existe des cultures françaises.
Moi, je suis d'avis de supprimer le ministère de la culture, purement et simplement.
Pourquoi ?
Surtout compte tenu de la manière dont il a été tenu ces dernières décennies, suppression pure et simple.
Pourquoi la France, la République française, ne ratifie pas la charte des langues? Nous sommes, paraît-il, le flambeau mondial de la liberté. Pourquoi nous refusons cette liberté fondamentale au peuple de France? Je dis au peuple au pluriel. Monsieur de Bekesh, là je crois que ce serait un sujet...
Je vous propose de revenir pour en parler, parce que je dois dire que je ne m'attendais pas du tout à voir l'historien Reynald Secher prendre feu et flamme pour une cause comme celle-là, qui est passionnante.
Mais nous sommes en plein dans le sujet. Je regrette d'ailleurs, si je peux me permettre, qu'on n'ait pas abordé cette question, qui est une question de fond, parce que c'est la destruction de la famille à la base qui est posée là, d'une très importante cellule dont personne ne parle parce que elle est passée dans les oubliettes. Parce que nous sommes tellement politisés, etc., et on n'en parle pas.
À ce reproche, je répondrai que nous c'est comptons pas reproche, faire... Là, c'est un reproche gentil. Nous comptons faire une université d'été par an, si Dieu nous prête vie aussi longtemps que possible, et que donc on ne peut pas épuiser tous les sujets en une seule année.
Oui.
Et notamment, nous avons en prévision une université d'été sur le thème de l'identité de la France, qui se prêtera très bien à ce genre de débat.
Voilà. Alors, je crois en tout cas que cet entretien a été extrêmement positif, en ce sens d'abord qu'il était intéressant, mais deuxièmement qu'il a donné un bon aperçu de ce qu'allait être l'université d'été de Renaissance catholique. Vous avez bien compris, en écoutant Reynald Secher et Georges-Paul Wagner, et même Michel de Gégère, que ça allait pas être du ronron professoral, on n'allait pas assister à des leçons données du haut d'une chaire, d'une façon impériale et impérative et mandarinale, mais que le débat va s'installer. On l'avait déjà senti la semaine dernière avec le professeur Dumont, qui nous avait un petit peu surpris
en apportant des... Je dois dire que la semaine dernière, moi, j'ai été jeté par-dessus tête. Parce que dans la première partie de l'émission, le professeur Dumont est venu nous dire qu'écoutez, faut peut-être un peu se calmer sur la responsabilité des francs-maçons dans la genèse de la Révolution. Ils sont pas les seuls, et bon, c'est pas très clair, etc. Et puis dans la deuxième partie, je me disais avec les Giraud de Coursac, on est tranquille. Et Madame Giraud de Coursac arrive en disant, moi, j'étais persuadé que les Anglais étaient responsables de la Révolution. Je me suis aperçu que c'était pas du tout le cas. Donc, mes deux coupables principaux se cassent la figure en une soirée. Les Anglais et les francs-maçons, c'est un peu la même chose d'ailleurs. Et puis cette semaine, j'apprends que Reynald Secher, que je croyais un historien confit en Vendée, si j'ose dire, est un défenseur virulent de l'identité bretonne.
Ah non, non, des identités françaises.
Bon, c'est bien clair. Je voudrais que vous reveniez pour développer.
Mais il a éveillé en moi des nostalgies, vous voyez, parce que...
Ah, je regrette ce mot, justement.
Que j'ai des origines bretonnes.
Ne parlez pas de nostalgie, c'est très futuriste.
Désespérant.
Oui, c'est très futuriste, ce combat.
Je dois vous dire que j'ai même essayé à un moment d'apprendre le breton, mais jamais réussi. C'est très difficile.
C'est pour ça qu'on l'a tué, parce qu'on ne voit... c'est l'expression même de la
langue. C'est probablement une langue qui rend intelligent, donc il faut la supprimer.
Et bien, vous plaisantez, mais je vous ferai remarquer que les grands intellectuels sont généralement bilingues de manière maternelle et paternelle.
Alors, il nous reste 5 minutes pour donner des détails techniques, pratiques, à moins que Michel Valadier veuille dire d'autres choses, parce qu'il nous reste 5 minutes. Je vous en fais cadeau, mon cher Michel, pour nous dire comment ça va se passer, combien ça coûte, parce que ça, c'est une question que tout le monde pose.
Très bien, merci beaucoup, Serge. Donc, cette université d'été se déroule dans l'Indre, à Mérigny, dans les locaux de la Fraternité de la Transfiguration. Mérigny, c'est un petit village qui se trouve près de l'abbaye de Fontgombault. Pour s'y rendre, il y a deux possibilités. Par la route, je donne les horaires au départ de Paris, que les personnes qui habitent la province m'en excusent, mais c'est une référence commode. Donc, au départ de Paris, par le TGV, on se rend à Poitiers, en gare de Poitiers, en 1h40. À partir de là, pour les personnes qui sont inscrites à l'université d'été, des navettes les emmèneront sur le lieu même. Au départ de Paris par la route, il faut compter 3h15 environ de route. L'université d'été se tient du 19 août au 22 août, c'est-à-dire depuis le jeudi matin jusqu'au dimanche après-midi. Il est possible d'arriver la veille au soir et nous proposons plusieurs formules d'hébergement. Alors je signale pour mémoire l'hébergement à l'hôtellerie, pour mémoire parce que l'hôtellerie est pleine depuis un mois et demi, mais nous avons des possibilités de logement chez des paroissiens, donc aux alentours immédiats de cette hôtellerie. Donc l'inscription est de 680 francs pour les 4 jours, comprenant la pension complète, le suivi des conférences bien sûr, et toutes les animations culturelles qui sont prévues, puisque chaque après-midi nous proposons aux participants qui le souhaitent d'aller visiter donc les merveilles qui se trouvent dans ce Bas-Berry. Pour les adhérents de Renaissance catholique, il y a une légère réduction, 620 francs. Deuxième possibilité pour les plus jeunes ou les spartiates, hébergement sous grande tente à proximité immédiate de l'hôtellerie. Donc 500 francs tarif normal, 450 francs pour les adhérents de Renaissance catholique. Troisième formule pour les personnes qui souhaitent loger chez des amis, à l'hôtel ou dans des gîtes, 420 francs. Et 380 francs pour les adhérents de Renaissance catholique. Je précise qu'à l'heure qu'il est, depuis environ 3 mois, 90% des gîtes sont d'ores et déjà réservés. Alors si vous voulez vous inscrire aujourd'hui, il reste encore quelques places car nous avons été prévoyants et réservé une 60aine de places en gîte. Sur ces 60 places, il doit en rester 15, je crois. Mais donc, si vous voulez vous inscrire encore aujourd'hui, premièrement, faites vite. Et puis deuxièmement, si vous êtes un peu compréhensif, il y aura de la place pour tout le monde. Nous pensons accueillir 300 personnes cette année, c'est-à-dire 100 de plus que l'année dernière. Nous avons déjà dépassé les 200 inscrits. Pour ce qui est des personnes qui ne peuvent pas venir à l'intégralité de l'université d'été, mais qui seraient à proximité le dimanche, pour la journée de dimanche, donc le 22 août, nous organisons une journée portes ouvertes, où vous pourrez assister à l'intégralité des conférences du dimanche, dont celle de Maître Georges-Paul Wagner. Et cette journée porte ouverte commencera donc à 10h. Voilà ce que je voulais dire.
Ce qui veut dire qu'on peut aller écouter gratuitement Georges-Paul Wagner. En revanche, pour Reynald Secher, c'est payant.
Ah. Voilà.
Alors, Rénal Séchat, vous voulez dire un mot, je crois. Je vous demande d'être très bref parce que il nous reste 3 minutes et je voudrais dire un tout petit mot avant de rendre l'antenne.
Alors, on me demande de donner mes coordonnées pour l'achat des bandes dessinées ou l'histoire de Bretagne, etc. En une seconde. Donc, ERS, édition Rénal Séchat, 39 boulevard Barbeau, 35 500, Noyal-sur-Vilaine, téléphone 99 04 00 69. Une minute sur un projet. Nous avons donc l'idée en Vendée, pour commémorer le génocide, de restaurer une chapelle du XVIe siècle. Et nous avons besoin de maçons bénévoles, de charpentiers. Nous pouvons les loger, les nourrir. Et si vous voulez aussi nous faire des dons, eh bien vous m'écrivez à l'adresse que je viens d'indiquer. J'ai acheté la chapelle déjà. Nous avons acheté le terrain. Donc là, nous avons besoin d'aide matérielle. Même si vous pouvez nous offrir carrément la charpente, les ardoises, etc. C'est le bienvenu. Toute forme d'aide est la bienvenue. Et vous m'écrivez toujours mon adresse, 39 boulevard Barbeau, 35 530, Noyal-sur-Vilaine.
Alors, tous ces numéros, toutes ces adresses, tous ces titres de livres, vous pouvez vous les faire confirmer ou rappeler en téléphonant demain à partir de 10h au Libre Journal de la France Courtoise. Le numéro de téléphone, c'est le 42 46 44 77. À partir de 10h, pas d'avance, s'il vous plaît. Je rappelle naturellement que l'université d'été de Renaissance catholique est ouverte à tous les âges. C'est-à-dire qu'on peut venir avec des bébés, comme beaucoup, beaucoup le font d'ailleurs, et on peut même venir avec des vieillards podagres. Il y avait d'ailleurs, l'année dernière, un certain nombre de vieillards podagres, fort sympathiques au demeurant. C'est pas les plus antipathiques, les vieillards podagres. Alors, je rappelle l'adresse de Renaissance catholique, c'est 89 rue Pierre Brosselette, 92 130 à Issy, le téléphone 46 62 97 04. Et puis, j'ai un dernier mot à dire. Quel est ce mot? Ben non, j'ai pas un dernier mot à dire parce que j'ai perdu mon petit papier pour changer.
Si,
bien sûr. Oui, je voudrais remercier tout spécialement Roger Olindre qui a organisé sa fête de Neuville-sur-Barangeon le dimanche dernier et qui avait accordé un stand à Radio Courtoisie et au Libre Journal de la France Courtoise. Je le remercie, nous n'avons pas pu y aller, mais je sais que cette fête a été une réussite totale. Malheureusement, elle a été terriblement endeuillée par un drame que je n'ai pas évoqué au début de l'émission parce que je ne veux pas transformer cette émission en mur des lamentations, parce que vraiment on est plus que peiné par ce drame. C'est la mort de Claude Denis, la femme de notre ami Jean Denis, qui s'était tuée en voiture le matin même. Et on était ce matin d'ailleurs à la chapelle d'Angillon pour ses funérailles. Et on fera une évocation dans une prochaine émission de Claude, qui était une femme extraordinaire. Mais je voulais pas endeuiller cette émission en parlant ce soir au début.
Et puis là, vous avez un autre mot?
Ah oui, on me demande de signaler la fête de l'école Don Bosco, 105 rue Raymond Losserand, Paris 14e, qui aura lieu samedi 26 juin à 12h30 et qui sera animée, pauvres enfants, par le chœur Montjoie Saint-Denis.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dans le cadre des archives de Radio Courtoisie, vous venez d'entendre le Libre Journal de Serge de Bekech du 23 juin 1993, diffusé dimanche 25 janvier 2015, dans la nuit de 2h à 5h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour l'enregistrement, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.